When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Qu'est-ce que vous faites tous les jours, vous ? Moi, c'est courir. Et c'est le cas depuis 100 jours. Et je vais vous en faire le bilan et vous donner mes conseils pour courir vous aussi très régulièrement. Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Québec 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de courir. Bah oui, parce que courir, bouger, c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer comment j'ai fait pour courir pendant 100 jours d'affilée. Eh bien oui, rappelez-vous, le lundi 26 juillet, je commençais à courir tous les jours. C'était il y a 100 jours. Ce mardi matin, j'ai fait 10 km pour fêter ça et je vous propose un bilan de cette nouvelle vie. La semaine dernière, j'ai demandé sur mon compte Instagram @BertrandSoulier de me poser des questions sur le sujet parce que j'ai commencé à faire mes calculs et j'avais anticipé que ça arrivait là ce mardi. Et j'en ai eu pas mal, alors je vais m'en servir de trame pour faire un bilan, mais je vais aussi rajouter quelques conseils par-ci par-là et vous donner à la fin une méthode pour courir plus régulièrement. Je vous dis pas forcément de courir tous les jours, mais vraiment d'ajouter beaucoup plus de mouvement si vous le souhaitez et si vous voulez vous inspirer de mon modèle, mon exemple, et je vais vous expliquer un petit peu ma philosophie vraiment qui va avec ça. Je vous rappelle d'abord mon défi. Mon défi, c'est de courir tous les jours. Voilà, posé comme ça, c'est simple. Il n'y a rien d'autre à dire, presque. Si ce n'est que, en fait, courir tous les jours, ça ne veut pas dire partir faire 10 km tous les jours ou 15 km ou je ne sais pas quoi. Non, mon but à moi, c'est d'abord de courir le minimum. On va dire que c'est l'action minimum viable, comme je l'appelle par ailleurs. C'est-à-dire que mon action minimum viable, c'est vraiment de dire, je vais courir 10 minutes ou un miles par jour. Alors, ce miles par jour, au départ, je l'avais pas vraiment annoncé. J'étais plutôt resté sur le 10 minutes. Et en fait, j'ai regardé depuis, on m'a envoyé des liens. Certains m'ont envoyé des liens en me disant, bah tiens, tu savais qu'il y avait un classement des coureurs qui courent tous les jours, une sorte de guilde, un club des gens qui courent tous les jours. Et alors, donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe. C'est un club américain. Et donc, pour rentrer dedans, il faut courir un miles par jour. Alors, un miles par jour, ça fait 1,6 km. Bon, j'ai regardé, hein, 10 minutes ou un miles par jour, c'est à peu près équivalent maintenant actuellement avec ma vitesse. Donc, mon quota du jour, c'est 10 minutes et un miles par jour. À partir de là, quand j'ai fait ça, je considère que mon action minimum est faite et donc que je peux soit rentrer à la maison, soit continuer. Bon, souvent, je vous l'annonce, je continue beaucoup. J'ai des séances qui ont fait 2 km, mais j'ai des séances qui ont fait beaucoup plus, bien entendu. Alors, pourquoi je fais ça ? Je voulais expliquer dans l'épisode 115, c'est que cet été, je me suis rendu compte à quel point j'étais en mauvais état global, physiquement. Je me sentais vraiment en mauvais état. Pourtant, on peut pas dire que ce soit des blessures ou quoi que ce soit. J'ai été opéré du genou cette année, mais franchement, j'avais l'impression de bien m'occuper de moi, hein, vraiment, j'avais cette impression-là. Et pourtant, cet été, j'avais mal au dos, j'avais mal partout, j'avais des douleurs dans les jambes, etc. Et donc, j'avais accusé la vitamine D, j'avais un bout de sciatique, alors que là, j'ai encore, qui se réveille un petit peu. J'avais mal au dos, et donc, on a vu plein de trucs dans mon corps, un pincement au niveau du disque, au niveau des lombaires, le manque de vitamine D, oui, qui existait, la sciatique, oui, qui était un petit peu liée à tout ça, etc. Et en fait, le constat, c'était pas que j'avais toutes ces douleurs-là, elles étaient un petit peu séparées, c'est qu'elles étaient liées à mon manque de sédentarité. C'est ce que j'ai dit dans l'épisode 115. Le constat, c'est que je souffrais de sédentarité pendant la période des opérations. J'ai eu deux opérations cette année, une vasectomie d'abord en début d'année, puis le genou après, un peu plus tard. Puis après, par les circonstances, etc., par le travail, par plein de choses comme ça, en fait, je m'étais un petit peu enfermé sur mon canapé. Je m'étais un petit peu coincé sur mon canapé. Et donc, j'ai décidé de me rebouger et de rebouger selon ma philosophie. Ma philosophie, c'est de dire que je préfère bouger souvent un peu que quelquefois beaucoup. Et le souvent chez moi, ben j'ai décidé que c'était tous les jours. Parce qu'en fait, tous les jours, c'est plus simple. Il n'y a pas de question de savoir, mais c'est quel jour que je vais courir ou c'est quel jour que je vais aller au sport ou quoi que ce soit. Non, cette question-là ne se pose plus. C'est tous les jours, je vais le faire. Alors, je l'ai fait pour plein de choses, en fait, le tous les jours. C'est-à-dire que c'est mon mode de fonctionnement. Le tous les jours, je l'ai fait quand j'ai lancé un podcast. Le tous les jours, je l'ai fait quand je me suis mis à faire de la vidéo sur Internet. Le tous les jours, je l'ai fait quand je me mets à écrire un livre. Par exemple, le tous les jours en podcast en ce moment, c'est j'ai créé un nouveau podcast qui s'appelle No Glutenberg, c'est mon défi sans gluten du mois de novembre. Et ben j'ai créé un podcast vraiment comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours je diffuse un épisode de podcast sur ce défi, sur pourquoi je ne mange plus de gluten pendant un mois et comment je fais ça et quel est l'impact sur moi. Bon, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, bien entendu, si ça vous intéresse. En plus, c'est des petites pastilles de 2-3 minutes, donc franchement, c'est vite écouté. Ça vous donne un petit peu des pistes, hein, des conseils, des astuces, un petit peu ma vision des choses de comment je fais ça. Mais bon, revenons maintenant à mon défi course. Les stats d'abord. Eh ben, j'ai couru 100 jours, hein, égale 523 kilomètres. Voilà, c'est mathématique, c'est facile. J'ai pris mon petit tableau Excel. En fait, j'ai exporté tout mon Strava pour voir. Et dans mon Strava, j'ai récupéré. En fait, il y a plein de fichiers qui remontent, vraiment beaucoup beaucoup de fichiers. Et il y en a un où dans lequel il y a tout le récapitulatif. Et donc j'ai fait des maths, j'ai fait un petit peu de maths. Et ça représente 523 kilomètres et 73 heures de course, soit une moyenne de 5,2 km par jour, vous voyez, hein, on n'est pas sur les 15 km, 10 km ou quoi que ce soit, hein, non, non, 5,2 km par jour. Bon, j'étais même un petit peu étonné parce que j'avais dit, j'avais les sessions les plus courtes étaient de 2 km, j'ai fait des sessions au départ de 2-3 km certains jours, donc je pensais vraiment avoir des sessions de 2-3 km, mais en fait, il y a des jours où j'ai fait 10 km, d'autres où j'en ai fait 12, j'en ai fait 13, une fois même, etc. Un jour, j'étais allé courir avec les copains du club, etc., je crois que j'avais fait 14 km sur la séance, et puis il y a même un jour, j'ai fait 3 séances. J'ai 3 séances, une du matin, et puis je m'étais rendu compte que le soir, vous savez, il me manquait un petit peu de trucs. J'étais parti courir faire 500 mètres en live sur Instagram, et puis je m'étais retrouvé en fait à courir 2-3 kilomètres de plus, puis j'en avais fait un peu plus long, et puis ensuite, et je m'étais rendu compte que mon compte n'était pas tout à fait rond encore, et j'en avais un petit peu rajouté. Bon, depuis, je me suis calmé là-dessus, hein, je vais vous l'expliquer, je me suis vraiment calmé sur ce truc-là de vouloir arrondir, de vouloir faire des comptes ronds, etc., parce que quand on court tous les jours, en fait, il faut rechercher autre chose, vraiment autre chose. Et c'est ce que je vais vous expliquer, parce que j'ai eu des questions justement sur comment je gère les séances, comment je gère mes semaines, comment je m'organise, comment je fais tout ça, etc. Donc, je vais vous donner un petit peu le cadre de tout ça. D'abord, un mot sur l'organisation de ma progression. Moi, ça fait, et j'ai appris ça avec les clubs, j'ai appris ça aussi en lisant dans mes bouquins, en creusant un petit peu le sujet, en discutant avec beaucoup de sportifs, vous savez, les invités que j'ai à droite à gauche, c'est que je travaille sur un cycle de 3 semaines de travail, de progression, hein, d'intensité, avec une intensité qui augmente au fil des semaines. Vous savez, avec mes fameuses règles des 10% de semaine en semaine, hein, si j'ai couru 5 km une première semaine, et ben la semaine d'après, je vais pas augmenter ma charge plus de 10% pour une raison qui est assez simple, c'est l'adaptation du corps, c'est le stress mécanique, c'est-à-dire que il faut stresser le corps pour progresser, mais si on le stresse trop, ça pète. Voilà, tout simplement. Et j'avais vécu sur ma première préparation marathon, mon marathon de Lyon de mes 42 ans, que j'ai pas pu faire parce que le stress mécanique avait trop augmenté pendant la préparation et je m'étais cassé, tout simplement cassé. Et donc là, maintenant, j'ai appris ça. Hein. Voilà, chaque petit truc me fait progresser. Et j'avais appris ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais 3 semaines de progression progressive et puis une semaine d'assimilation, de récupération, hein, comme on appelle ça un petit peu, assimilation. C'est-à-dire que finalement, on va laisser le corps se reposer un petit peu pour intégrer ce qui a été fait avant, hein, pour reconstruire un petit peu le corps. Et puis ensuite, bah finalement, ça repart sur un nouveau cycle de 3 semaines. Alors cette semaine d'assimilation, récupération, c'est pas une semaine de repos, hein, c'est juste de courir moins. Et courir moins, ça veut dire moins en volume et moins en charge. Et attention, volume et charge, c'est différent. Le volume représente le kilométrage, la durée. Par exemple, le volume, c'est de dire j'ai fait 40 km dans la semaine ou j'ai couru 5 heures. Ça s'appelle du volume. La charge représente l'intensité que l'on met dans les séances. Et l'intensité, par exemple, c'est de se dire que 30 minutes de séance de côte, hein, monter et descendre, ou faire des escaliers, eh ben, c'est beaucoup plus intense, hein, que de faire 1 heure en endurance mentale, tranquillou, 60% de VMA, en train, enfin, ou de fréquence cardiaque, en train de discuter avec quelqu'un. C'est, vous voyez un petit peu le principe. Si vous faites une séance de VMA, vous faites des accélérations, par exemple des 30-30, vous faites des 400 mètres à fond, et puis ensuite un peu de récup et des 400 mètres à fond comme ça, vous faites ça. Bon, ben, votre séance, elle peut faire que 30 minutes, mais elle peut être beaucoup plus fatigante et beaucoup plus intense que de faire une heure où vous êtes tranquillement en train de regarder un petit peu le paysage, ou même des fois, moi, je fais des pauses photos, donc je peux partir courir une heure, et des fois, en une heure, je vais faire 9 kilomètres. Donc, autant vous dire qu'en intensité, elle n'est pas très élevée. Elle peut être un peu fatigante parce qu'il y a le temps, etc. Mais comparé à une séance de côte où je vais faire des montées et des descentes, où je vais avoir du dénivelé qui va être beaucoup plus important, elle sera beaucoup moins fatigante pour les muscles sur la récupération, etc. Et parce que elle est moins intense, ma petite heure de, j'ai envie de dire, de balade tranquillou au soleil. Et donc, à ce sujet, au fait, hein, je dois vous le dire aussi quelque chose, c'est que ces séances côte, VMA, etc., elles restent très contenues dans une logique qui est de dire que je fais 80% d'endurance mentale. C'est-à-dire que 80% de mes séances en volume, c'est tout simplement de faire de l'allure basse. Vraiment de l'allure basse. C'est-à-dire que toutes les séances commencent par de l'échauffement. Par exemple, il y a des jours, j'ai fait que 30 minutes d'entraînement. Vraiment que 30 minutes. Dans ces 30 minutes, j'ai fait, par exemple, 15-20 minutes d'échauffement, footing tranquillou. Et ensuite, derrière, j'ai mis 10 minutes avec des montées, des descentes pour créer de l'intensité. Ça fait une belle séance, hein, je peux vous garantir, j'étais cuit après. Et ensuite, hop, après, je rentre à la maison. Alors en fait, la séance, elle fait 35 minutes, hein, parce que quand je dis 30 minutes, il y a un petit arrondi. Mais j'ai déjà fait ça, il y a des jours, j'ai pas le temps. Alors il y a même une fois, j'ai fait en plein soleil, j'étais obligé de me mettre à l'ombre. Et j'ai fait ça tranquillement, c'est-à-dire d'aller faire 20 minutes vraiment tranquillement. Et puis ensuite, j'arrive en bas d'une côte, je fais pendant 10 minutes des montées et des descentes, et puis ensuite je rentre à la maison tranquillement, c'était juste à côté de la maison, donc en 2-3 minutes j'y étais, et donc ça faisait une séance qui avait à la fois de l'endurance mentale, une bonne partie, et puis ensuite à côté de ça, un travail intense. Et donc le reste de ces autour de ces 80%, c'est de la VMA. VMA, donc, c'est accélérer la capacité à courir plus vite. Du seuil, c'est de la résistance, hein, tout simplement. C'est la capacité à tenir une allure, par exemple, de l'allure 10 km, de l'allure marathon, des choses comme ça. Et puis, des côtes. Les côtes, ça permet de développer mentalement et physiquement, et puis aussi de travailler la technique de course, parce que quand vous courez en côte, vous ne pouvez pas, par exemple, talonner. C'est un truc qui est impossible. Ça vous oblige aussi à monter les genoux. Donc, il vaut mieux, des fois, faire une bonne séance de côte. Et quand j'ai une bonne séance de côte, c'est-à-dire que, déjà, vous faites 10 minutes à monter à fond vos côtes et à redescendre à fond, et puis à faire des trucs comme ça. Vous savez, j'ai une fois sur mon compte Instagram, j'ai parlé de ce que j'appelle la séance toboggan, par exemple. C'est-à-dire que je prends une côte, je monte, quand j'arrive en haut, je continue sur un bout de plat pour relancer, et ensuite je redescends et je fais ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Bon, bien sûr, après une séance comme ça, vous êtes totalement cuit, donc faut faire un petit peu de récup, un petit peu derrière. Rappelez-vous les conseils dont on a discuté avec des épisodes avec Pascal, pour arriver tout simplement ensuite à dégraisser un petit peu, à faire partir les toxines, etc., sur la récupération, mais ça vous fait des bonnes séances. Donc, je me suis concentré vraiment sur cette partie-là, endurance mentale. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai besoin de reprendre l'habitude de courir. Pendant des mois, j'ai pas pu courir comme je voulais, donc je dois reprendre vraiment cette capacité à courir. Et puis je voulais aussi travailler sur ma foulée, avoir une foulée plus économe, arriver vers les fameux pas des 180 pas par minute, vous savez, ce fameux cap. Et puis aussi, bon, bah, courir pieds nus, par exemple, l'épisode que j'avais fait de courir pieds nus, il m'a amené aussi des pistes de réflexion. Le livre que j'ai lu, etc., m'a amené des pistes de réflexion. J'avais commencé aussi à envisager depuis très longtemps, vous savez, de courir minimaliste, d'être de plus en plus minimaliste. Et d'être de plus en plus minimaliste m'a amené à courir carrément pieds nus. Mais ça, je vais en reparler un petit peu plus loin parce que j'ai une question sur le sujet. Et donc, en fait, cette course pieds nus, ou cette course en sandales, cette course avec des chaussures minimalistes, m'amène aussi à travailler une foulée qui soit plus efficace, et notamment par un pied qui travaille un peu plus. Et donc c'est vraiment mon but, c'était vraiment ça, hein, sur ces périodes, ces 100 premiers jours, c'était vraiment de travailler là-dessus. Bon, c'est la condition aussi pour moi pour allonger les distances, faire un travail plus spécifique ensuite pour dire je vais faire du travail de vitesse, hein, vraiment être capable de faire des accélérations pour améliorer ma vitesse pour courir un 10 km, pour faire un 5 km par exemple, hein. Ça c'est vraiment, il faut vraiment travailler la vitesse pour le faire ça, mais c'est aussi arriver à retrouver une vitesse pour faire du semi-marathon ou du marathon, parce que pendant cette longue période de blessure, il y a un truc que j'ai perdu, c'est ma vitesse, ma fameuse VMA. J'ai perdu 3 points de VMA quand même, et bon, ben 3 points de VMA, si vous regardez le temps que je peux faire, ça veut dire qu'il y a un moment donné, là où je pouvais envisager de courir un 5 km en moins de 20 minutes, et ben maintenant c'est un peu plus compliqué de l'envisager envisager de courir autour de 25 minutes. Voilà, tout simplement. C'est mes séances avant, faire une séance à 10 km/h était tranquille, mais dans fin de séance à 10 km/h est un peu moins tranquille. Voilà, tout simplement. Parce que bah, j'ai perdu ma vitesse dans laquelle je suis capable de tenir assez, pas assez longtemps, mais un certain temps. Hein. C'est la VMA, les tests de VMA, c'est pas des tests très longs, mais c'est une vitesse de base à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Comme tout le reste est calculé en fonction de ça. Par exemple, ma vitesse marathon, courir le marathon à 12 km/h, c'est-à-dire 5 minutes au kilomètre, je suis actuellement incapable de le faire. Pourquoi ? Parce que bah, j'avais perdu déjà cette VMA, cette vitesse. Donc après, bah, finalement, toutes les autres vitesses en découlent bah, sont plus lentes, hein, vraiment. Et donc, courir à cette vitesse-là de 5 minutes au kilomètre est pour l'instant trop rapide pour que je sois capable de le faire sur 42 km. Et après, bon, mais il y a aussi les questions de est-ce que je veux courir plus long ? L'an prochain, je veux faire un gravelman. Un gravelman, c'est pas de la course, mais c'est du vélo, mais c'est de l'endurance sur du long, quoi. Et donc, pour être capable de faire de l'endurance sur du long, bah, il faut être capable de courir longtemps, il faut être capable de courir économe, il faut être capable de tenir longtemps l'effort, etc. Donc, c'est pour ça que ce travail, au début, hein, je dis travail physique, hein, vraiment, c'était de dire, je vais d'abord me concentrer sur ma capacité à courir, à allonger petit à petit ma capacité à courir, à tenir l'effort, à courir plus dans ma semaine, à avoir vraiment un volume d'effort, hein, vraiment un volume d'effort important. Et je parle vraiment de volume, c'est-à-dire de dire, je veux courir, par exemple, 50 km dans ma semaine. Ça veut être un objectif de courir 50 km dans ma semaine. Mais pour arriver à courir 50 km dans ma semaine, quand au début, je pars à des semaines à zéro, et puis à 12, 13 ou 15 kilomètres, eh bien, il m'a fallu du temps pour arriver à monter. Alors, avec ma fameuse règle des 10%, c'est-à-dire monter petit à petit, assimiler, remonter, etc. Voilà. Donc là, vous avez l'organisation globale, en fait, hein, de comment je m'organise. Et ça, ça, toute l'année, hein, je fais comme ça. Mais bien sûr, sur cette période-là des 100 jours, eh ben, j'ai fait attention un peu plus à ça parce que il faut pas se casser. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à courir tous les jours. Donc, c'est pas se casser. Donc, c'est faire gaffe à la récupération. Et d'ailleurs, on va y revenir parce que j'ai des questions là-dessus. Mais avant d'arriver à ça, je dois vous parler de mon organisation de mes semaines. Comment j'organise mes semaines ? En fait, je ne cours plus en club depuis la rentrée. Donc, je n'ai plus l'ancien rythme du mercredi du vendredi qui était très balisé. C'était les rendez-vous au club à 18h30. Le mercredi, on faisait de la piste. Le vendredi, on faisait soit des codes, soit des seuils autour ou soit du parcours cross. Ça n'existe plus. Donc, ça veut dire que moi, il faut que je me réorganise. Je me suis réorganisé. Et puis, dedans, il y a des contraintes aussi. Par exemple, ma femme est en formation les samedis et dimanches, une semaine sur deux. Elle fait une formation de naturopathie. Et donc, moi, je suis seul à la maison avec ma fille. Et donc, je dois aller courir avant que ma femme ne parte. Et ma femme, elle part autour de 8h. Donc, je vais courir avant, tout simplement avant, hein, parce que c'est mieux de courir pour moi tôt le matin que d'aller tard le soir quand elle rentre, parce que si elle rentre à 19h, et ben aller courir à 19h, c'est pas forcément sympa, surtout l'hiver. Courir le matin, c'est plus facile pour moi. Une fois que c'est fait, je suis tranquille, j'ai plus à y penser, vous voyez, c'est placé comme ça. Donc, le dimanche matin, le samedi matin, c'est pas forcément facile de placer des sorties très longues, même si par le passé, hein, quand je préparais le marathon d'Albi, que j'ai pas pu faire à cause de fameux confinement, du premier confinement, j'avais réussi à faire une séance de 2h, voire même 2h15, hein, il me semble, la plus grande séance, j'avais réussi à la faire. Donc dans ce cas-là, il faut que je parte à 5h moins quart pour être à 7h à la maison. Bon, ben voilà, ça se fait, hein, je l'ai fait, je dansais sur le parking à côté de la maison quand je suis à la fin de ma séance. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Je me réveille tous les jours à 5h, même un petit peu avant maintenant. Donc c'est pas un problème. Faire des séances à la frontale, c'est des choses que j'ai faites. Hein. Je l'ai fait dans mes 100 jours. Je préfère les faire le matin, faire une séance à la frontale le matin que la faire le soir. Ça, par contre, c'est chez moi une habitude. C'est aussi mon mode de fonctionnement. Si vous connaissez un peu les chronotypes, etc. Moi, je suis plutôt du mode, hein, à me lever tôt le matin et me coucher plus tôt le soir, que d'être un oiseau de nuit qui va veiller très tard, etc. et qui va aller courir à 10h le soir. Mais chacun a son rythme et c'est vous de trouver votre rythme là-dedans. Là-dessus, moi, on fonctionne comme on fonctionne, hein. Je peux pas changer grand chose sur mon fonctionnement. Vous pouvez pas changer grand chose sur votre fonctionnement. L'important, c'est de le comprendre. Donc, comme je l'avais dit dans l'épisode sur les conséquences de ma sédentarité, c'est que j'ai besoin aussi de voir le jour et de prendre le soleil. C'est pour ça que les séances à la frontale, je vais aussi les limiter un petit peu. Donc, je m'organise aussi pour courir le plus souvent possible de jour. Donc, vous voyez, ces contraintes-là, elles sont placées dans mon emploi du temps. Mais j'en ai d'autres, des contraintes qui sont placées dans mon emploi du temps. C'est que je préfère faire des sorties, donc j'avais dit, au soleil. Quel jour je peux les faire au soleil et en les faisant sur des terrains qui sont plus intéressants, etc. Eh ben, c'est par exemple de faire le vendredi des sorties longues au soleil, une autre le lundi. C'est parce que comme je peux pas faire de sorties longues le samedi, le dimanche, pour ces raisons de contraintes, je veux me dire, ben, tant qu'à faire la frontale, je préfère faire des séances courtes à la frontale, d'aller courir par exemple une demi-heure à la frontale. Je préfère faire deux séances courtes le samedi, dimanche à la frontale et faire des séances plus longues au soleil le vendredi et le lundi, tout simplement. Donc c'est comme ça que je me suis organisé. Donc c'est vraiment de cette manière-là que je fais. Par exemple, le samedi et le dimanche, quand ma femme est en formation, je vais plutôt faire des séances de récupération, plutôt courtes. Ou alors je pourrais faire limite une séance un petit peu intense, mais plutôt courte, vous voyez, si c'est en intensité, je pourrais très bien le faire. Je peux faire une séance de côte hein, le dimanche matin si j'ai envie, sachant que le lendemain, je ferai un footing plutôt tranquille. Et donc, je vais placer des séances de vitesse, des séances de côte, des allures, etc., des séances d'allure sur les autres jours. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et puis, je rajoute d'autres contraintes. Par exemple, le mercredi, j'amène ma fille au yoga. Donc, le yoga, ça dure normalement une heure. Bon, le temps que ça se mette en place et puis pour arriver à la salle avant que ça se finisse, pour être sûr que je sois bien à la porte quand elle soit sortie, je fais plutôt 45 minutes dans les environs de la salle où il y a du chemin un petit peu vallonné. J'ai découvert des nouveaux terrains, etc. Dans ces chemins vallonnés, je peux faire un petit peu de dénivelé, je peux faire un petit peu d'accélération, je peux faire pas mal de petits trucs. J'ai même trouvé des marches. Donc je peux faire plein d'entraînements comme je veux. Mais j'ai ce temps de 45 minutes environ. Je sais que dans ces 45 minutes, soit je vais placer un footing, hein, vraiment, endurance mentale pendant 45 minutes, aller visiter un petit peu les trucs, soit je peux placer une séance où je vais faire des accélérations, par exemple. En 45 minutes, je peux très bien faire 20 minutes d'échauffement, et puis placer à la fin 5 minutes de récup, et donc ensuite, dans les 20 minutes qui va rester au milieu, bah, dire que je vais faire 3 fois 5 minutes en allure marathon, par exemple. Ça passe avec un petit peu de récup au milieu. Je peux le faire sur 45 minutes. Et ça fait une bonne séance qui est très intéressante. Le jeudi, c'est un jour, en ce moment, c'est comme le week-end, il y a la chasse. Donc, j'évite les chemins. Alors là, je me sens, un jour, j'avais oublié que la chasse était ouverte un jeudi matin et qu'il pouvait y être. Et j'avais prévu de faire une belle côte là et tout. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu plein de chasseurs sur la côte où je voulais aller. Donc je sais que le jeudi matin, maintenant, c'est le jour où je ne peux plus aller courir sur les chemins. Et donc c'est comme ça, hein. C'est comme le samedi, le dimanche. Il faut faire avec, hein, tant que la chasse est autorisée comme ça. À limite qu'elle soit autorisée le jeudi, c'est pas un problème pour moi. Je me dis bon, c'est pas le jour où on est le plus. Par contre, le samedi, dimanche, je peux vous garantir que ça me gave vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça empêche aussi d'aller marcher sur les chemins avec ma fille et en famille. Tranquillement, donc là c'est vraiment, ça me gave. Je suis désolé si vous êtes chasseur, hein, j'ai rien contre vous, mais moi, avoir des chasseurs qui courent, qui tirent au fusil de 7h du matin à 18h le soir à côté de la maison, ça me gave littéralement. Et c'est vraiment le genre de truc, vous voyez, je suis pas du genre à m'énerver quand des causes, etc. comme ça, mais là oui, ça m'énerve. Oui, là ça me gave littéralement de le faire parce que ça me cache certains de mes week-ends. C'est pas du tout agréable, hein, on entend les coups de fusil pas très loin. Ils ont beau dire qu'en fait, ils ont jamais tué quelqu'un dans le chemin, je voudrais pas être le premier à vérifier que finalement un jour ça va arriver. Bon, cette parenthèse est en fait, revenons sur l'emploi du temps. Le mardi et le jeudi sont mes journées de travail les plus courtes aussi. Donc c'est là où j'ai placé mes séances les plus courtes, voilà, tout simplement. Pourquoi c'est les plus courtes ? Parce que je vais chercher ma fille à l'école à 16h. Les autres jours, le lundi, le vendredi, ma femme va chercher ma fille à l'école à 16h25, hein, vous voyez. Et le mardi, c'est moi. Voilà. Donc et le jeudi, c'est moi. Donc ce qui veut dire qu'en fait, le mardi soir et le jeudi soir, ben c'est des moments où je joue avec ma fille, on a plus de temps pour jouer, alors que le lundi et le vendredi en fin d'après-midi, je travaille, j'ai un peu plus de temps de travail. Donc, j'ai des journées de travail plus courtes, donc je place des séances plus courtes aussi. Voilà, c'est une logique comme ça, hein, c'est pour garder quand même des journées qui ont un petit peu de consistance pour pouvoir faire certaines choses. Notamment, par exemple, le mardi, c'est souvent le jour où j'enregistre KM42, où je fais les petites intros, je prépare un petit peu les billets de blog, etc. Donc, je veux avoir un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Et puis, je les répète, hein, c'est que on a des habitudes aussi, hein, comme ça, qui se forment et tout, j'en reparlerai un petit peu, mais moi j'ai une habitude que j'aime bien depuis les préparations marathon, c'est que le mardi j'aime bien aller faire une sortie à midi, vous voyez, il n'y a pas de chasseurs, c'est cool, etc. Donc j'aime bien aller faire une sortie sur les chemins, mais je vais pas faire une sortie qui va faire dans les préparations marathon, c'était pas le jour où j'allais faire une sortie longue qui fasse 1h30 ou quoi que ce soit. Donc j'ai été plutôt sur de la sortie où je me disais je fais 45 minutes, 1 heure en endurance mentale sur les chemins. Vraiment, voilà, cool. C'est, j'ai gardé un peu cette habitude, vous voyez, de la sortie du mardi midi là au soleil. En fait, elle est pas à midi, elle est à 11h. Comme ça, ça me permet ensuite de rentrer à la maison, manger, faire une petite sieste et puis travailler là sur le bout avant d'aller chercher ma fille. Comme ça, je suis bien content, ma journée elle est bien bien structurée, ça me plaît bien de faire comme ça. Puis j'ai une autre habitude, c'est le vendredi, j'aime bien aller boire un café au marché. J'en ai déjà parlé, hein, si vous suivez mon compte Instagram, vous avez déjà vu des photos. J'aime bien aller boire mon café au marché avec du café de qualité. Vous voyez, c'est le seul café que je bois de la semaine. Donc ce que je fais, c'est que j'amène ma fille à l'école, je suis en tenue, hein, vraiment en tenue, je la dépose à l'école, et puis à partir de l'école, je pars en prenant des chemins plus ou moins longs, et puis dans tous les cas, qui m'amène au marché où il y a le café, et puis ensuite je bois mon café, je discute un petit peu avec Luc, et puis hop, je rentre à la maison, je prends ma douche et je travaille. Voilà, c'est mon habitude, hein, du vendredi, elle est comme ça. D'ailleurs, je suis un peu malheureux quand il est pas là le vendredi. Ça me motive, et c'est vraiment un truc qui est important, c'est que ça me motive moi pour aller courir le vendredi matin. Je décale un petit peu ma séance et dans ce cas, je vais la faire à midi. Vous voyez comme quoi? Et je vais en parler à la fin parce que c'est très important, mais les habitudes, c'est vraiment un élément qui est vraiment extrêmement important. Et ça en fait partie. Bon, maintenant, vous avez le cadre global. On va quand même poser une question, c'est de savoir comment je faisais pour placer la course pieds nus dans tout ce truc-là. Et bah, j'ai une logique, en fait, c'est que la course pieds nus, j'ai aussi mis une sorte de pourcentage. Voilà, une sorte de pourcentage, c'est que j'essaie de faire environ 20 à 30% de mon volume global pieds nus et en sandales. Alors, vraiment, l'idée hein, dans tout ça, c'est que pourquoi je fais la course pieds nus, c'est que déjà, j'y prends un grand kiff. À courir pieds nus dans le gazon d'un terrain de foot est sympa, mais aller courir pieds nus sur les chemins là au-dessus de la maison, c'est encore plus sympa. Alors, il y a des gens qui vous regardent un peu bizarrement. Lundi, il y a quelqu'un qui s'est littéralement arrêté, presque. C'est-à-dire que moi, je courais pieds nus avec mes sandales à la main. Et il y a une dame qui montait sur un chemin, et quand elle m'a vu, quand elle a vu mes pieds, quand elle m'a vu filer là comme ça, comme... J'avais l'impression de filer comme une gazelle, mais ma vitesse c'est pas très élevée, mais mon sentiment à moi, c'était que je courais comme une gazelle, comme ça, avec mes pieds comme ça, qui rebondissait, enfin qui atterrissait avec douceur et qui repartait un petit peu pour reprendre les images qu'on avait prises dans l'épisode sur la course pieds nus. Et en fait, elle était en pleine montée, et puis d'un coup, elle s'est presque arrêtée. Et j'ai regardé, je me suis presque demandé si elle n'avait pas envie de me demander ce que je foutais là. Et en fait, elle s'est retournée et tout, et puis elle a ralenti, puis après elle est repartie. Mais je pense que si je la recroise un jour pieds nus, je pense qu'on finira par discuter, parce que c'était vraiment drôle de voir sa tête, vraiment vraiment drôle. Hein. On avait parlé, vous savez, dans les épisodes sur les sandales de course, j'avais fait une présenterie en disant qu'on court en tongs, mais oui, ça ressemble à des tongs. Hein. Moi, je dis... quand je suis sur mon travail, quand vous voyez une petite émoji de tongs, c'est que j'ai fait une sandale, hein, j'ai fait une course, une séance en sandales. Comme vous voyez par les tongs, hein, c'est des courses en sandales. Ce que je fais en fait, c'est que je fais 20-30% de mon volume global. Ça veut dire que globalement, je fais une séance, voire à deux séances. Hein, j'ai fait en courant en sandales et pieds nus. J'ai même fait une semaine pieds nus totalement, 100% pieds nus, 7 jours sur 7 pieds nus. Ce que je fais en fait, c'est que je fais sandales et pieds nus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits où franchement, je ne peux pas encore passer pieds nus. Voilà, Ken Bob Saxton qui dit qu'il faut faire des séances pieds nus sur des caillasses, sur des trucs où c'est difficile à passer. Il y a des endroits où vraiment, vraiment, même en basket, il y a des endroits où les pierres, elles sont vraiment très pointues. Alors, en sandales, ça passe un petit peu mieux. Et puis, ce que je fais, en fait, c'est que je vais dans certaines zones, hein, comme ça. Et je dis, hein, d'ailleurs, c'est pas la route le problème quand on court pieds nus. Quand je faisais ma semaine pieds nus, j'ai fait beaucoup de route et un peu de chemin, mais j'ai fait beaucoup de route. Et en fait, la route où roulent les voitures, elle est tellement lisse par le poids des bagnoles que finalement, elle est plus agréable que les trottoirs. Et ça, c'est vraiment un truc qui est important. J'avais couru pieds nus dans la rue là en faisant mon live sur Instagram dont j'ai parlé, sans aucun problème, en courant vraiment pieds nus sur la route, pas de douleur. Faut faire attention aux bouts de verre, mais on fait un petit écart, etc. Et bizarrement, je le dis, hein, y a moins de bouts de verre sur la route que sur les trottoirs. Hein, ça vient aussi de l'emplacement des poubelles, ça vient de l'emplacement des poubelles à verre, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Puis aussi des appareils qui font le nettoyage dans les rues là. Ma fille appelle ça balayou. C'est le truc là qui passe avec des rouleaux là. Et ben forcément, quand il est passé sur la route, il ben, y a plus de verre sur la route, il y a plus de saleté, etc. Et sur le trottoir, le balayage, il se fait plus souvent en balayant avec des balayeurs à la main, j'ai envie de dire. Mais souvent, il y a plein d'endroits où je passe où il y a jamais de balayage sur le trottoir. Hein. Tout simplement, il y a très rarement du balayage sur le trottoir. Donc, ce qui fait que souvent la route, elle est plus propre que le trottoir et plus agréable que le trottoir, surtout quand on court pieds nus. Quand on court pieds nus, on s'en rend vraiment beaucoup plus compte. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je mets une à deux séances par semaine, ça dépend un petit peu du temps. Bon là, je vous avoue qu'il va se mettre à faire plus froid, mais j'ai couru l'autre jour dans la boue et tout, en étant pieds nus, c'était pas non plus désagréable, c'était même comment dire, c'est une sorte de retour un petit peu à la nature. Je fais mon wild un petit peu dans cette histoire-là. Et pourquoi je fais ça, en fait, c'est que c'est pour renforcer mes jambes, ma musculature des jambes, les tendons, les pieds, avoir une foulée plus efficace aussi. Vraiment travailler avec une foulée, justement, vous savez, pour arriver sur ce cap de courir à 180 pas par minute, etc. Il faut être plus minimaliste, avoir une foulée qui va pas accrocher, qui va pas taper dans le sol, mais vraiment qui va atterrir, qui va vraiment faire fonction de ressort. On a vraiment parlé dans l'épisode sur la course pieds nus, dont je vous renvoie dans les archives du podcast. Et vraiment, c'est là, j'ai constaté vraiment une grosse différence, en fait. Petit à petit, en courant pieds nus, je me rends compte que ma foulée a vraiment évolué. Et ça m'a permis d'arriver, en fait, à la question suivante qui m'était posée. Est-ce que j'ai vu des changements physiques et mentaux depuis que je pratique la course tous les jours? Et vraiment, je me suis posé des questions, ça m'a posé la question quand j'ai eu la question, j'ai fait une première réponse sur Instagram, j'ai dit je vais la creuser vraiment pour la faire à l'audio dans cet épisode de podcast. C'est que physiquement c'est difficile à dire car moi je me vois tous les jours. Voilà, je me vois tous les jours, et à un moment donné je passe devant un miroir à poil et je me regarde et je vois pas vraiment de différence. Mais l'autre jour ma femme, elle me voyait que je me pesais, elle m'a dit bon ben non, tu dois être revenu à ton poids de forme. Hein, non. Et je lui dis, bah non. Bah non. Alors, pourquoi elle a l'impression que je suis revenu à mon poids de forme? Bah, tout simplement parce que physiquement, j'ai l'impression d'avoir fondu. Mais quand ma balance, elle me parle, elle me dit que je suis à 85,5 kilos. Donc, c'est statistiquement par rapport à ma taille de 1m83. Je suis en surpoids. Statistiquement, je suis en surpoids. Alors, je suis très loin de mon obésité quand j'étais à 105 ou 107 kilos. Non. Je suis encore 20 kilos de moins qu'à cette époque-là. J'ai perdu 2 kilos depuis le début de cette expérience de courir tous les jours. Et ces 2 kilos que j'ai perdu, ma balance me dit que c'est 2 kilos de gras. J'ai aussi perdu 5 kilos depuis le mois de mai où j'avais dit que j'étais bien grassouillé, où j'étais repassé au-dessus des 90 kilos, où je mangeais n'importe comment, où je pouvais pas courir, où je pouvais pas faire de sport, etc., où j'aime pas beaucoup marcher. Et en fait, c'était vraiment lié à l'alimentation. Donc j'avais grossi sur l'année, j'avais pris presque 10 kilos entre le moment où j'ai dû arrêter de courir, entre ma pause de l'an dernier, vous savez, la pause où j'étais complètement cuit, après il y a un an de ça là. J'ai fait une grande pause. Ensuite, j'ai eu du mal à reprendre. Ensuite, il y a eu les fêtes et ensuite, il y a eu la blessure. Et jusque après l'opération, jusqu'au mois de mai, j'ai pris au total 10 kilos. Bon, bah, ces 10 kilos-là, j'en ai perdu la moitié. J'en ai perdu la moitié globalement depuis le mois de mai, dont 2 hein, sur cette période des courses de 100 jours. Alors, ça vous paraît assez faible? Et c'est assez faible, hein. On pourrait se dire, tiens, j'aurais pu perdre plus, etc. Mais en fait, c'est que le corps, il s'adapte petit à petit, hein, il fait perdre, etc. Mais par contre, je l'ai pas aidé, moi, avec mon alimentation. C'est-à-dire que je me suis fait un peu plaisir, j'ai mangé un petit peu, vous voyez, me suis resservi sur certains plats, on a fait des boulanges run. Donc, boulanges run, c'est je pars courir, je reviens par la boulangerie. Et souvent, dans ces cas-là, normalement, je pars avec ma tactique de la pièce de 2 euros. C'est-à-dire que je n'ai qu'une pièce de 2 euros, donc avec une pièce de 2 euros, je ne peux acheter que du pain. Grosso modo, du pain plus un petit croissant, hein, en faisant un peu les calculs, et ça c'est en trop, le croissant et viennoiserie, c'est en trop. Bon, bah, je l'ai fait un petit peu trop souvent, mais ça vient aussi de notre vie, de notre quotidien, du stress du quotidien, où par moment, bah, moi j'ai été éduqué comme ça, hein, où le rapport à l'alimentation, il est un peu foireux, il est très émotionnel, et il y a des jours, bah, quand ça va pas, et en fait vous ne voyez pas en fait l'envers du décor, hein, j'ai envie de dire, même si on en parle un petit peu des fois sur Instagram avec ma femme depuis quelques temps, les difficultés qu'on peut avoir avec notre fille, un petit peu des petites choses comme ça, etc. Bon, bah, il y a un moment donné où ça a compensé par un petit peu trop de chocolat, cet été c'est un petit peu plus de glace, un petit peu de viennoiserie, des choses comme ça, et donc ça me permet de faire un rappel, hein, c'est que le sport ne fait pas maigrir. Moi, je considère que le sport ne fait pas vraiment maigrir ou pas maigrir beaucoup. C'est vraiment l'alimentation qui est le plus gros facteur d'évolution de notre poids. J'ai même l'autre jour fait des calculs un petit peu. Hein, si par exemple vous avez des gâteaux, si regardez des paquets de gâteaux à la maison, regardez les calories de vos paquets de gâteaux, regardez les calories perdues pendant votre séance de course d'une heure. Vous allez voir, hein, que franchement, il faut courir beaucoup pour éliminer certains gâteaux. Et le problème, c'est ça, en fait, c'est que c'est moi pendant longtemps, j'ai cru, je me suis dit, bah, je cours, donc je peux manger ce que je veux. Ça, c'était ma logique avant, hein, avant d'être quand j'étais encore un gros hamster et tout, je faisais ça, hein, quand j'ai commencé à reprendre. Et j'ai compris qu'en fait, non, si on mange mal, bah, en fait, on perd pas, même si on fait beaucoup de sport. Et en plus, on nourrit pas son corps pour faire bien du sport. Donc le sport, c'est plutôt pour moi quelque chose qui accompagne et aide à mieux manger. C'est-à-dire que quand on fait du sport, on se dit bon, pour faire du sport, je vais pas manger ça avant d'aller courir, ou je vais faire un effort, je vais quand même essayer de mieux manger pour récupérer, etc. Donc Le sport, pour moi, c'est vraiment une aide à mieux manger. C'est vraiment le mode de vie. C'est-à-dire que le mode de vie, c'est de se dire, bon, maintenant, si je veux arriver à courir, par exemple, une course, il faut que je m'allège un petit peu, mais pas trop, mais je vais m'alléger un petit peu, je vais faire un peu plus attention à ça. Si je veux bien me nourrir avant une course, il faut que je mange telle ou telle chose. Si je veux faire attention à pas me sentir trop lourd, je vais faire ça. Je me rends compte que si je mange ça, je récupère mieux, je suis plus en forme, etc. Et donc, petit à petit, oui, ça a un impact global sur tout un tas de choses, dont notre poids, qui est logique. Et là, vraiment, je le dis, hein, c'est que j'ai la preuve encore. Hein, c'est-à-dire que j'ai couru 100 jours, j'ai fait 523 bornes, je ne perds que 2 kilos. Alors qu'on aurait pu se dire qu'en courant tous les jours, j'aurais pu en perdre beaucoup plus, tout simplement parce que je faisais du sport tous les jours. Bah non, vous voyez, bah non, bah c'est pas énorme. Il y a une époque, hein, je perdais du poids plus rapidement quand je faisais moins de sport, mais que je mangeais mieux. Voilà, en faisant plus attention à l'équilibre global. Bon, on va voir maintenant, là, au mois de novembre, puisque là, j'enregistre cet épisode, on est le quoi, 3 novembre. On va voir si ma nouvelle expérience, je vous en ai parlé tout à l'heure, de manger sans gluten, aura un impact. Hein. Je vous rappelle, j'ai fait le podcast No Gluten Bear. C'est sans gluten, donc chaque jour, petite pastille audio. Et en fait, je dis, ça peut avoir un impact, mais ça peut ne pas en avoir. Parce que le gluten n'a rien à voir avec le poids, c'est pas à voir avec les calories, etc. Mais l'évolution de manger sans gluten peut amener à enlever certains produits de l'alimentation, donc ça peut avoir un impact. Certains produits, par exemple, ça va être de dire le pain, mais ça peut être aussi de dire maintenant les viennoiseries, par exemple, de mon boulangerie, c'est terminé. Le cookie, quand je vais boire mon café le vendredi matin, c'est terminé. Sauf si Luc, mon barista, se met à faire des cookies sans gluten. Il a commencé, hein, c'est une question qui se pose aussi, hein, il a commencé à faire des trucs un peu sans gluten. Donc voilà, il y a cet équilibre-là, on va voir comment ça va bouger. Mais je pense pas que mon alimentation sans gluten, au départ, va faire baisser le poids par elle-même. C'est la conséquence de l'évolution de supprimer certains produits, etc. L'alimentation peut faire baisser tout simplement certains produits gras, rééquilibrer un petit peu les choses. Donc on verra si ça va bouger quelque chose ou pas. En tout cas, je me suis pesé lundi 1er novembre, du premier jour de mon défi sans gluten, et je verrai un petit peu comment ça va évoluer, mais ça j'en parlerai dans le podcast. Il y a un autre truc aussi que je dois faire, c'est que je le dis, c'est que ma femme, elle a le sentiment que vraiment physiquement j'avais repris mon poids de forme. Alors mon poids de forme, c'est quoi d'ailleurs? Il est compliqué à dire. Je dis toujours qu'il est autour de 80, entre 80 et 82 kilos. C'est toujours ça. Donc vous voyez, je suis à 85, je suis un petit peu au-dessus. Dans mon application, j'avais mis un objectif qui était plutôt autour de 78 kilos en fait. J'aimerais bien que mon poids de forme soit autour de 78, 79. Et ça en fait, vous savez, c'est l'évolution de mon parcours en fait. C'est-à-dire que de passer en dessous des 80 kilos, c'était quelque chose qui me semblait juste à un moment donné tellement impossible. Et quand j'ai couru le marathon de Paris, j'étais dans ces zones-là, autour de 78, 79 kilos dans ces zones-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que je trouvais que j'étais dans le miroir, en fait, on va dire, le plus satisfaisant pour moi. Hein. Et je dois aussi, quelque chose qui est pour moi important, c'est physiquement, j'ai toujours rêvé depuis longtemps d'avoir des abdos, etc. Et avoir des abdos, il faut bien sûr qu'à un moment donné, il y a un peu de gras qui s'en aille et il met du temps à s'en aller là-dessus. Et donc ça passe aussi finalement par du renforcement musculaire, de la musculation, des travail un petit peu aussi pour donner un peu plus de force. Et ça, je vais en reparler parce que j'en ai besoin aussi. Mais bien sûr, un petit peu de faire attention à l'alimentation, de perdre encore un petit peu de gras. Et puis bien sûr, quand on est un peu plus léger, on court un petit peu plus facilement, on a un peu moins de poids à porter, bien entendu. Bien sûr, sans tomber dans l'excès, hein, et on en a parlé, donc j'ai eu un épisode de sport et nutrition, par exemple, avec Yvan Rassa, où lui, il parlait qu'il était tombé dans la boulimie, en faisant trop attention à ça. Là, moi, j'en suis pas là, hein, attention. Je le dis vraiment, je mets vraiment un gros disclaimer, comme on dit. C'est le but du jeu pour moi, c'est d'arriver sur un poids que j'estime un poids de forme, c'est-à-dire qu'un poids que j'arrive à maintenir de manière facile, dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens assez léger, dans lequel je me sens bien dans mon corps, vous voyez, par rapport au ventre, par rapport à mes bourrelets, par rapport à ma forme globale, etc. Et j'estime qu'il est un peu plus, je dois être encore un peu plus léger. Voilà, tout simplement un peu plus léger. Mais toujours est-il que, même quand je regarde des photos, hier j'ai fait des photos à la fin de ma séance pour mettre sur mon Instagram, etc. Quand je regarde, c'est vrai que physiquement, on voit qu'il y a des endroits où j'ai perdu un peu de gras, j'ai perdu un petit peu, où je suis, on va dire, un peu plus svelte. Je suis un peu plus léger, mais je suis plus svelte et l'impression globale, c'est qu'on a l'impression que je suis plus léger que je ne suis vraiment. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a croisé un jour et je lui dis j'ai repris 10 kilos, il me dit non, je te crois pas. J'ai appris tant, je fais tel poids, il me dit non, je te crois pas. Et je dis si, c'est vrai. C'est juste en fait que l'aspect global, et ça on avait parlé avec Philippe Billard dans un épisode, c'est que à un moment donné, le corps il évacue un petit peu à des endroits, il s'habitue en fait à mon nouveau mode de vie, on va dire, et on peut se dire qu'il a peut-être jugé qu'à un moment donné, il y a des endroits où ma petite graisse était un petit peu en trop. Et ben voilà, donc j'ai ce sentiment hein, que par moment, en tout cas, où la tenue du corps, musculairement aussi, doit jouer aussi, bien entendu, parce que il sait qu'il faut tenir le corps, etc. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être plus svelte que je ne le suis vraiment sur la balance. C'est un sentiment qui est un peu bizarre, que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu, mais en tout cas, c'est le constat que je fais. Ensuite, pour la question, est-ce que mentalement, ça changer quelque chose. Et en fait, mentalement, ça a changé vraiment beaucoup de choses, j'ai envie de dire. D'une part, parce que c'est une habitude qui est devenue très automatique. Et donc, maintenant, je me pose même plus la question de savoir si je vais courir ou pas. Même quand j'ai, un jour, j'ai un petit peu mal au pied ou un truc comme ça, bon, ça peut arriver. Je me pose pas la question de me dire, oh, aujourd'hui, je me repose. Je dis, non, je vais faire juste 10 minutes. Comme ça, je vais faire mon petit 10 minutes, mon miles, comme ça, tranquillement. Mais j'en ai besoin, c'est mon moment où je vais sortir, où je sais que je vais prendre un peu le soleil, s'il fait beau, où je vais sortir, etc. Bon, bien sûr, il y a des moments où il pleut, où il fait froid, etc. Là, on rentre en plus dans la période où il va faire plus froid, etc. Mais en fait, il y a des jours où je suis allé courir sous la flotte, je suis rentré sous la flotte, j'étais trempé jusqu'aux os et tout, vraiment, j'étais à tordre, hein. Si on a pu me tordre mon corps totalement, j'aurais sorti des litres de flotte qui seraient sortis parce que j'avais pris la flotte, j'étais trempé, vraiment trempé comme une serpillière. Et pourtant, j'étais revenu avec un grand sourire et tout, j'avais pris un kiff pas possible. Et donc, ça, c'est des trucs que je connaissais pas avant. Il y a plus le truc de dire, bon, quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Non, ça n'existe plus, puisque je suis sur mon habitude de me dire non, et je vais continuer ma série, de courir, etc. Donc, c'est vraiment devenu un mode de vie. Et j'ai constaté aussi un autre changement important qui est sur l'ego. Et en fait, ça, c'est un truc dont je parle un peu régulièrement, de plus en plus sur mon compte Instagram. Pourquoi? Parce que avant je regardais toujours des trucs comme la vitesse, ma moyenne, faire absolument 10 km en une heure, arrondir les séances à 10 km pile, etc. Et en fait, la comparaison aussi, vous voyez, et ça c'est parti ce truc-là. Pourquoi c'est parti? Bah, tout simplement parce que le but du jeu, en fait, c'est de faire ma séance, le minimum, c'est ma séance minimum, et le reste c'est du bonus. Finalement, la vitesse, je l'ai pas mise, vous voyez mon constat. J'ai dit mon but, c'est de courir 10 minutes et 1 miles. C'est minimum 10 minutes et 1 miles. C'est pas un mile en 10 minutes. Non, c'est pas dire je fais 10 minutes, je dois faire 2 km ou quoi que ce soit. C'est pas de dire je dois faire 5 km systématiquement. Si j'ai 30 minutes, je fais mes 5 km. Si j'ai que 25 minutes, je dois faire 5 km aussi. Non, c'est pas ça. C'est l'action minimum viable de courir tous les jours. C'est pour moi courir au minimum 10 minutes et de faire en sorte que j'arrive à faire un mile. Des fois, mon mile, il va faire 10 minutes. Voilà. Des fois, il va peut-être faire un peu plus long, si je vais tranquillement, etc. Mais en tout cas, c'est ça mon truc. Et une fois que j'ai fait ça, le reste c'est du bonus. Donc je vais pas m'amuser à arrondir, tiens, j'ai fait 9,80, je vais faire absolument 10. Alors 9,80, faire 10, à l'imi je veux bien, mais des fois, quand je suis à 9,45, et je monte à 10, vous voyez, c'est faire 600 mètres de plus. Sauf que si je fais 600 mètres de plus tous les jours, comme ça, à force, vous voyez, bah 600 mètres de plus par 600 mètres de plus multiplié par les journées, etc., vous vous rendez compte, ça fait 3, 4, 5 km de plus, hein, tout simplement, qui peuvent arriver hein, par le cumul comme ça. Et en fait, ça, c'est la fatigue. Alors, autant quand on court deux fois par semaine, on s'en fout de ça, on s'en moque. Ou dire, tiens, je vais courir vite, etc., je vais me faire plaisir, etc., et tout, bon, non. Mais quand on court tous les jours, le but du jeu, c'est vraiment d'être en forme, d'être capable de courir tous les jours, de pas surcharger la machine, et de se dire qu'à un moment donné, j'ai fait 4,6 km, et ben j'ai fait 4,6 km, je vais pas arrondir systématiquement à 5, etc. J'ai fait 4,6 km à une vitesse qui est de peut-être 9 km/h, c'est sûr que certains vont dire, oh, t'as pas couru bien vite aujourd'hui. Et alors, je m'en tape royalement. Le truc, c'était de dire, non, aujourd'hui, ma séance, c'est d'arriver à courir à cette allure-là. Et d'ailleurs, si je devais préparer l'ultra, 100 km, des choses comme ça, comme j'ai envie de le faire, cette vitesse-là. Ce serait pas de courir, d'aller faire que des séances où il faut courir à 10 km, à 12 ou à 13. Non, ça serait d'habituer le corps à courir à des vitesses, de courir à 8 km/h, mais pendant plus longtemps, par exemple. Donc, cette sensation, là, cette obligation, cette comparaison d'être le plus rapide sur les segments, etc., c'est des trucs dont déjà, moi, j'étais jamais le plus rapide sur les segments, donc je m'en fous. Mais en plus, vraiment, en plus, maintenant, je m'en suis carrément détaché. Même de savoir quand Strava m'annonce que j'ai battu mon record sur des segments, Je regarde des fois, je dis mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je suis parti courir super doucement, etc. Et il me dit qu'en fait j'ai battu mon temps sur un segment où je dis bon bah tiens, c'est pas très important en soi. Bon voilà, c'est pas important, c'était pas le but. Je me suis pas présenté au segment en disant là je vais exposer mon temps ou quoi que ce soit. Je suis passé naturellement dessus. Alors là aussi physiquement, ça veut dire que si j'arrive à courir en ayant cet état d'esprit des segments plus vite que ce que je faisais avant, ça veut dire que peut-être que j'ai progressé. Et c'est ce qui m'amène à la question suivante, c'est est-ce que j'ai progressé entre le premier jour et le centième ? Et là, il y a plusieurs manières de mesurer cette progression. Comment on peut la mesurer ? Est-ce que je me sens plus en forme ? Est-ce que je cours plus facilement ? Est-ce que je cours plus vite ? Bon, il y a tous ces critères-là. Je vous ai dit, il y a des segments, je me suis rendu compte que j'ai battu mon meilleur temps sur des segments Strava, alors que j'avais le sentiment que je courais doucement, et pourtant j'ai battu mon meilleur temps sur des segments Strava, par rapport à une époque où je courais plus vite, où j'avais une VMA plus élevée. Pourquoi ? Ben probablement parce que j'arrive plus frais. Peut-être parce que avant il y avait des segments, par exemple un segment où, qui est sur une montée. Avant je partais peut-être plus vite quand je courais et puis j'arrivais peut-être plus fatigué. Donc cette montée-là j'étais peut-être moins capable de la faire. Alors que maintenant je pars tranquillou, j'arrive la montée, j'ai fait tranquillou et au final sur la vitesse globale sur ce segment-là, et ben elle se retrouve plus rapide. Ça m'est arrivé sur certains segments. J'étais très surpris. Je comprenais pas pourquoi ça se passait comme ça. Et donc, est-ce que j'ai progressé en vitesse? Pas vraiment. J'ai rappelé, j'ai perdu 3 km/h de VMA, donc de vitesse, on va dire, maximum, aérobie. Donc, ça fait beaucoup quand même. En jour 3, j'ai fait un test et je m'étais rendu compte à quel point j'avais perdu. C'est-à-dire que au lieu de faire 16, je fais 13. Et donc, en vitesse, c'est vraiment une perte qui est vraiment très importante. Pour ça que je dis que, par exemple, on dit que la vitesse marathon, c'est 80%. Mais 80% de 16 et 80% de 13, c'est pas pareil, ça fait vraiment un gros écart. Donc j'ai pas retesté, je vous avoue, j'ai pas fait de test de VMA, etc. Ces derniers temps. Je vais en faire un là pour voir un petit peu, un de ces jours je vais en faire un. J'ai pas envie de faire un test de VMA, test de VMA je trouve que c'est un peu, c'est pas agréable, c'est gonflant, et puis il faut avoir les bonnes conditions, je trouve, tout pour le faire. Mais bon, je referai au même endroit que j'ai fait les précédents trucs, hein, c'est-à-dire regarder en 6 minutes combien je suis capable de courir, à quelle vitesse, combien je fais en distance, et puis ensuite faire des multiplications, et puis on verra si ma VMA a progressé. Mais en fait, là, je peux pas vous dire sur la vitesse, j'ai pas beaucoup en plus travaillé ma vitesse, c'est pour ça que j'ai pas fait de test de VMA, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé sur ma capacité à courir plus régulièrement, le plus souvent possible, être le plus en forme, c'est-à-dire faire disparaître les douleurs, etc. Et sur ce plan-là, les douleurs, elles ont disparu. Donc c'est pour ça que je trouve que oui, j'ai progressé. Peut-être pas sur la vitesse parce que je n'ai pas travaillé spécifiquement, mais par contre, je sais que je me sens plus en forme, que je cours plus facilement et que je cours globalement, on va dire, plus confortablement. Et donc, ça vient du travail de foulée, ça vient de l'habitude, ça vient de la répétition, ça vient du fait que les distances s'allongent, ça vient du fait que maintenant, j'arrive à retrouver un petit peu cette aisance à courir plus tranquillement, etc. Et je me rends compte aussi que ma foulée a évolué. Alors, je pense qu'il y a de la course pieds nus qui a joué, que la course minimaliste, hein, j'ai acheté une paire de Altra, enfin on m'a offert une paire de Altra pour mon anniversaire, même c'est moi qui ai commandé, c'est le modèle, c'est les Vanish XC, donc vous pouvez pas faire plus minimaliste hein, chez Altra, hein, la semelle est très fine, la chaussure est extrêmement légère, elle est très très souple, etc., il y a très peu de tenue, en fait c'est une semelle avec un peu de mèche autour, on va dire. Donc on n'est pas sur les modèles ou taurine ou trucs où il y a des trucs avec des rebonds dans tous les sens qui sont mis avec des semelles compliquées, etc. Là on est vraiment sur le modèle qui est le plus simpliste, j'ai envie de dire. Je trouve même qu'il est vendu un peu cher pour un modèle simpliste, parce que quand on voit le mèche, l'épaisseur du mèche, il est quand même pas très épais. Mais en tout cas, c'est un modèle et encore une fois, je me suis rendu compte qu'il m'a fait travailler encore mes jambes, encore différemment par rapport à mes escalantes, etc. C'est encore différent, ce qui est assez surprenant, mais ce qui montre que entre deux paires de Altra, des modèles différents de Altra, il y a encore vraiment des différences qui viennent tout simplement des épaisseurs de semelles. Parce que des Altra, je le dis, même si c'est du drop zéro, donc qui normalement nous amène sur l'avant-pied, si vous avez un modèle, par exemple des taurines qui ont une grosse semelle, vous pouvez encore talonner. pouvais encore talonner. C'est ce qui s'était passé moi sur quand j'étais passé sur des taurines. Alors que sur des vaniches XC qui sont très fines, si vous talonnez, c'est pas très agréable. Et si vous talonnez en courant pieds nus, c'est carrément impossible. Donc c'est pour ça que ma foulée aussi, elle a évolué. Et là, je me rends compte de l'évolution de ma foulée. Des fois, je me regarde courir, je me rends compte de ma position des jambes, la remontée du genou devant, qui est différente, ma position de course, ma position du corps global, comment je monte plus facilement les côtes, comment je récupère plus facilement. Et mon capteur de puissance Stride, que j'ai eu à Noël dernier aussi, c'est pareil, il montre des petits trucs qui sont intéressants, c'est-à-dire qu'il montre une augmentation permanente de ma puissance depuis le... C'est bien parce que en fait, il fait des stats sur les trois derniers mois, il met une courbe sur les trois derniers mois, donc elle est très claire, et il montre que ma puissance a augmenté, donc ma puissance de course, donc ma capacité musculaire tout simplement a augmenté, mon oscillation verticale est plus faible, ma vitesse moyenne augmente, hein, donc quand je disais j'ai pas travaillé ma vitesse, mais ma vitesse moyenne sur les séances, elle augmente quand même, et un truc qui m'intéresse vraiment, c'est que le temps d'appui au sol a diminué de 30%. Et ça, c'est un élément qui est important, ça veut dire que je m'écrase moins dans le sol, ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait dit sur l'épisode de course pieds nus, Ken Bob Saxon sur la course pieds nus, ce qu'il dit, c'est l'avantage, c'est que au lieu d'attaquer le sol et d'appuyer fort dans le sol, le pied se pose et hop, il y a une espèce de rebond qui doit se faire. Et ben là, le capteur Stride, il prouve que c'est le cas, puisque quand je cours avec et le capteur Stride n'est que sur mes chaussures, j'ai pas changé de chaussures, mis à part que j'ai intégré ce nouveau modèle là d'Altra. Mais j'ai mes escalantes comme avant, elles ont plus d'un an mes escalantes, hein. Elles ont pas fait beaucoup de kilomètres, j'ai passé les 500 kilomètres, vous voyez, avec les escalantes, à force de faire des variations de chaussures entre deux modèles d'escalantes, des taurines pour le trail, etc., des sandales, des pieds nus, etc., et puis sans parler des Five Fingers, donc sur le volume, je tourne entre maintenant 6 paires de chaussures, plus mes pieds, donc mes chaussures n'ont pas un kilométrage énorme, et donc entre Noël et puis maintenant, et puis en fait je constate quand même que mon temps d'appui au sol a diminué, mais surtout il a diminué depuis que je fais ces efforts, depuis que je cours tous les jours là, il a diminué de 30%, et ça c'est vraiment important, ça veut dire qu'en fait bah, tout simplement le rebond dans le pied etc. est meilleur, j'appuie moins, je m'écrase moins dans le sol, ce qui veut dire que c'est vraiment pour moi un critère de progrès qui est important, et là aussi où je m'en suis rendu compte, c'est que je fais moins de bruit, et ça je vous en avais parlé dans un épisode. Comment on mesure son progrès, ses progrès pour moi, notamment, c'est un truc qui est un facteur qui est vraiment important, c'est que je me rends compte à quel point je fais moins de bruit quand je vais courir. Je ne fais quasiment plus de bruit en courant, et ça, c'est vraiment un truc qui me change tout. C'est-à-dire que des fois, bon, j'ai des écouteurs et des aftershocks, hein, vous savez, donc on entend quand même tout ce qui se passe autour, et des fois, je coupe carrément et je me dis, mais je cours. Et le soir, le matin, là, quand je cours, qu'il y a personne, quand on n'entend pas les voitures, et ben on m'entend pas moi non plus. D'ailleurs, c'est très marrant parce que l'autre jour j'ai délogé des lapins sur un chemin. Ça faisait un peu de temps que je voyais pas de lapins. Et puis il faut dire ils ont bien raison. Hein, il y a des chasseurs dans le coin, donc ils se méfient, ils font plus attention. Mais ça faisait quelques temps que je voyais plus trop de lapins, etc. Et je me suis rendu compte l'autre jour que j'ai débusqué des lapins, mais j'avais jamais été aussi près d'eux. Et des poules, je sais pas quoi aussi, mais là c'est les chasseurs qui ont introduit ça pour les tirer. Elles sont parties où je sais pas où. Et ben en fait, je me suis rendu compte que les lapins, ils étaient au milieu du chemin, ils m'ont pas entendu arriver. J'aurais presque fait peur, alors qu'avant ils me voyaient, ils m'entendaient de loin et arriver avec mes gros pas d'éléphant, ils m'entendaient vraiment. Non, maintenant ils m'entendent beaucoup moins. Et ça pour moi, ça fait partie aussi des critères de progrès. C'est ce côté en fait de dire je suis plus léger, m'intègre mieux à la nature, on va dire. Et ça, c'est, vous voyez, un critère de progrès pour moi, qui est pas un critère que vous trouvez dans les livres de course, qui est pas un critère que vous trouvez dans les entraînements, etc., mais qui est mon critère pour moi, qui est l'un de mes critères pour moi. C'est ça. Ensuite, on m'a posé la question, est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que je fais des étirements? Des choses comme ça. Alors, je vous rappelle quand même que au niveau douleur, je pars de loin. Cet été, donc j'ai fait des radios, j'ai un pincement discal. Alors, c'est pas une hernie discale, mais on va dire qu'on est un peu dans le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le disque qui s'est serré. Donc, il est pas parti pincer le nerf dans la colonne vertébrale, mais en fait, forcément, il y a des moments où les vertèbres, elles sont plus proches l'une de l'autre, et des fois, ça pince. Et ça pince, ça fait très mal. Donc, j'ai un pincement d'un disque lombaire, sciatique. Alors, c'est normal, hein. Attention, j'ai 45 ans. C'est logique, hein. Vous pouvez ne pas avoir mal et avoir quand même un pincement d'un disque, etc. C'est totalement logique. Et en fait, c'est juste l'usure du corps, hein. On est vieux, on vieillit. Ça veut pas dire qu'on est à jeter à la poubelle ou quoi que ce soit. C'est juste que Il y a des gens chez qui ça fait mal et des gens chez qui ça ne fait pas mal. Voilà. Je regardais des vidéos, notamment de Major Mouvement, qui expliquaient ça très très bien. Il y a des gens, si on fait des radios à des gens qui ont 45 ans ou 50 ans, on va se rendre compte que tous, ou presque, ont des pincements, des trucs comme ça qui peuvent arriver. Il y a juste des gens à qui ça fait mal et des gens à qui ça fait pas mal. Et en partie, ça vient du position du corps, ça vient des choses chez moi, notamment, c'est que la question des étirements est intéressante. C'est que je suis pas très souple et donc le médecin m'avait prescrit de la kiné quand même pour gagner en souplesse. Mais quand je vais voir ma kiné, elle est vraiment hallucinée par mon manque de souplesse. Et ce manque de souplesse, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça tire dans les muscles, ça tire dans le dos, ça tire à plein d'endroits. Et ça faisait aussi partie en fait de ce que je devais faire comme travail. Alors, est-ce que j'ai des douleurs? Non, franchement, j'ai pas eu vraiment de douleurs. Aucune douleur au genou opéré, et ça c'est vraiment un très bon signe. J'ai eu une douleur un jour à l'autre genou, alors là, j'ai commencé à m'inquiéter, à me dire s'il fallait refaire un truc et tout, mais non, en fait, c'était juste comme ça, je pense un petit coup de fatigue, et ce qui est lié aussi, je redis, c'est que j'ai une sciatique, et ma sciatique s'est réveillée ces derniers jours, et ça, c'est vraiment une question, mais je pense qu'en fait, c'est pas que physique cette sciatique. Bien sûr, il y a des histoires de position physique, etc. Bien sûr, il y a plein de choses. Mais en fait, je crois aussi à la dimension psychologique de cette douleur. Hein, l'état d'esprit, le fait de se focaliser dessus. Bien sûr, maintenant qu'elle est réapparue, je me focalise beaucoup plus dessus. Mais par exemple, je sais que j'ai fait moins de respiration, moins de yoga, j'ai fait moins de ma cohérence cardiaque, j'ai fait moins de tout un tas de travail comme ça que j'ai moins fait, plus de stress. Je disais, hein, des fois, élever une petite fille, c'est pas si simple que ça. Notre petite fille, elle est, on pense et tout le monde nous dit, même les psychologues pensent maintenant qu'elle est en, qu'elle a haut potentiel, donc elle a une, elle pompe aussi beaucoup d'énergie parce qu'elle a, ça demande beaucoup de choses et puis il y a des petites choses qu'elle n'arrive pas à gérer et qui sont dures à gérer aussi pour nous, donc ça fait beaucoup de stress. Plus le stress, tout simplement, de savoir comment vivre, par exemple, comment payer certaines factures des fois qui a été un peu compliqué, etc. C'est pour ça que je vous remercie, vous tous, qui soutenez par exemple le podcast par le biais Patreon, pour vous qui écoutez la pub aussi, parce que si vous avez la pub, c'est que vous n'êtes pas sur Patreon, si vous êtes sur Patreon, vous avez le podcast sans la pub, hein, c'est l'avantage, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, puis vous avez le journal d'entraînement aussi. Tout ça fait que il y a des questions qui se posaient, mais là je suis content, c'est que sur cette fin d'année, par exemple, je suis beaucoup plus tranquille, et donc je veux vous remercier, parce que c'est aussi vous, en écoutant le podcast, qui me permettez de vivre du podcast, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les 3 mois qui viennent, mes revenus sont assurés par le podcast, par les petites pubs que vous avez entendues, par Patreon, par le soutien que vous m'avez apporté, etc. Et ça, je veux vous en remercier beaucoup, hein, donc j'en profite à ce moment-là de le dire, donc ça me tranquillise un petit peu, mais je sais aussi que ces douleurs, certaines de mes douleurs, sont aussi une dimension un petit peu psychologique. Et la sciatique, ma femme, dans ses études de naturopathie, donc elle a des elle a plein de bouquins et tout sur les douleurs, sur les d'où elles viennent, etc. La sciatique fait partie, hein, des douleurs qui sont aussi provoquées par des causes psychologiques. Et même en faisant mes recherches, et Major Mouvement en parlait, un autre ostéo en parlait, etc. sur des vidéos YouTube que j'ai trouvées, une manière aussi de soigner ça, hein, c'est d'arriver tout simplement à se décontracter, à respirer, arriver à s'alléger mentalement, à mieux manger, à faire attention en alimentation, à plein de choses. Il n'y a pas qu'une question physique. Il y a bien sûr une question du fonctionnement physique. On va pas nier que le pincement, il est là. Mais en fait, le pincement, j'en ai parlé avec ma kiné. J'avais regardé des vidéos, j'avais discuté avec les médecins, etc. En fait, le disque, il se tasse parce que il manque de mouvement, je manquais de sport, donc ma sédentarité, et il manquait aussi d'hydratation. Et en fait, le fait de recourir, le fait de faire plus de sport, de bouger plus, etc., j'ai beaucoup moins mal au dos quand même. J'ai beaucoup, beaucoup moins mal au dos. C'est juste en fait que maintenant, j'ai cette douleur de sciatique qui est remontée, en fait, ces derniers jours. Bon, je connais un petit peu, je vois un petit peu certaines causes, une ou deux nouvelles qui sont passées comme ça, etc., qui est à gérer, je pense que ça vient de ça aussi, mais ce qui montre aussi que nous sommes un corps et un esprit, que nous sommes tout un ensemble, et que des fois c'est normal que vous ayez mal, mais que la douleur, elle ne soit pas que par votre activité physique, elle peut venir tout simplement par les nouvelles que vous avez. Et tenez un journal par exemple, regardez, c'est intéressant, demandez-vous si par exemple, il n'y a pas des douleurs que vous avez ne viennent pas tout simplement d'une nouvelle que vous avez reçue. Par exemple, ça peut être à la fin du mois, une facture qui arrive et vous vous rendez compte 2-3 jours après, vous avez une douleur, je sais pas, je dis à la jambe, mais je sais pas. Peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez systématiquement mal à la jambe ou au dos. quand il faut faire réparer votre bagnole ou quand il y a un truc à faire à payer qui est un peu lourd, etc. Et en fait, c'est là où l'impact il est important. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que sur cette souplesse, comme j'ai mal au dos et que j'ai mal sciatique, etc. Et puis que avec aussi le genou, avec il y a certains mouvements en yoga que je peux moins faire. J'avais un peu délaissé mon yoga, tout simplement parce que c'était vraiment pas agréable et vraiment pas agréable. Et donc je sais aussi que j'ai perdu encore un peu en souplesse, donc il faut que je reprenne un petit peu de ça. Donc vous voyez, cet ensemble-là, est-ce que j'ai mal des douleurs? Ben, elles avaient beaucoup baissé et là j'étais vraiment content. Il y a cette histoire sciatique qui revient. Est-ce que je fais des étirements? Pas assez. Vraiment pas assez. Mais les étirements sont pas là pour moi pour faire de la récup. Les étirements, en fait, sont là pour travailler ma souplesse. Et cette souplesse-là, en fait, elle me permettra, ben, aussi d'être mieux dans mon corps. Vraiment, d'être mieux dans mon corps. D'avoir des tensions en moins. Parce que le fait, par exemple, de manquer de souplesse fait que ça tire sur toute la chaîne musculaire et jusqu'au lombaire, etc. Et donc, ça améliore pas la sciatique. Ça améliore pas la sciatique non plus. Bon, ceci étant dit, j'ai encore une autre question qui m'était posée. Et alors, celle-ci, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me soit posée, mais comment je fais pour faire gagner mes pensées positives chaque jour? Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, tiens, c'est une question qui est intéressante. Comment je fais pour faire gagner mes pensées positives chaque jour? J'avais une crainte qui était un peu de m'ennuyer, de perdre ma motivation, le fait d'aller courir tous les jours, vous voyez, est-ce qu'au bout d'un moment, je vais pas en avoir marre? Et en fait, je me suis connecté à un objectif qui est plus haut. Et là, j'en reviens sur tout ce que j'ai dit sur la motivation. Mais j'en reviens aussi à un épisode que j'ai fait avec Phil Billard, l'épisode 109, Phil UFO, où il disait qu'en fait, son objectif, c'est de devenir un vieillard galopant. C'est-à-dire garder la bonne santé le plus longtemps possible. Et l'autre jour, j'ai dit bondissant, il m'a dit non, c'est galopant. Mais galopant et bondissant, on est d'accord que si on est des vieillards galopants et bondissants, ça serait super top, hein, super, super top. Et donc, en fait, mon objectif le plus haut dans ma tête, c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible pour être ce fameux vieillard galopant et bondissant. Et ça, c'est vraiment un truc qui est pour moi un élément vraiment important. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y a des jours, bien sûr, on est un peu plus fatigué, il y a des jours où les nuits ont été courtes, il y a des jours où j'ai pas envie, on va dire que je vois le temps, etc. Je pourrais me dire, bon, bah, avant, j'aurais dit non, j'y vais pas. Et vous voyez, là où les habitudes, etc., où maintenant, j'ai dit, bah non, j'y vais dans tous les cas, c'est pas le problème. Et en fait, pourquoi? Parce que je vais pas juste pour pas briser la chaîne. Oui, ça joue, le fait de ne pas briser la chaîne, d'y aller, de garder l'habitude, etc., de continuer la chaîne, les fameux, d'aller le plus loin possible, comme ça, en courant tous les jours. Mais en fait, je sais aussi que c'est ce qui va m'aider à être ce fameux vieillard galopant, bondissant, tout ce qu'on veut, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément qui est vraiment super important. Et donc, pourquoi il y a des jours où je peux le faire alors qu'avant je ne faisais pas? Eh bien, c'est parce que je suis reconnecté à cet objectif-là. Et c'est pour ça que c'est un élément qui est vraiment important pour vous. C'est pourquoi vous courez? Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous avez envie de bouger? Et quel est finalement... est-ce que c'est pour faire des courses? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux? Est-ce que pour faire telle ou telle chose? Mais quel est votre but suprême, j'ai envie de dire? Ouais, je sais pas trop comment le dire, mais vraiment c'est important. Et puis il y a un autre élément qui est important aussi pour faire gagner mes pensées positives chaque jour, comme me poser la question, c'était de la reconnexion à la nature. Et notamment, en fait, d'aller courir sur les chemins, de voir mes petits volcans, de monter sur mon petit volcan, de regarder les gros volcans qu'il y a autour. Et en fait, je cours à 80% du temps sur les chemins. Et là, je sais que j'ai une chance, et que vous n'avez peut-être pas pour certains, ceux qui courent peut-être qu'en ville, qui peuvent courir qu'en ville, etc. Moi, j'ai la chance, on a une maison, on est dans une ville, hein, attention, j'habite pas dans un... au bout, en pleine campagne, hein. Mais on a la chance d'avoir juste à côté des chemins sur lesquels on peut aller courir. Et ça, c'est vraiment une chance qui est vraiment très intéressante et très importante pour moi, c'est que en fait je cours 80% du temps maintenant sur les chemins. Même l'autre jour, quelqu'un m'a fait la remarque en me disant, bah tiens, tu cours avec tes escalantes sur les chemins. Oui, je cours avec mes escalantes, qui sont des chaussures de route, hein, plutôt typées semi-marathon, etc. Je cours avec mes escalantes sur les chemins, même sur des chemins qui des fois sont un peu glissants. Il y a un jour, je les ai amenées sur un chemin où c'était vraiment trop glissant pour elles, mais je cours sur les chemins avec mes chaussures comme ça. Donc, ce qui fait que je pars un peu sur la route, et puis dès que je vois une petite bifurcation avec un petit chemin, ben je prends dessus. Et oui, je cours à peu près 80% du temps sur ces fameux chemins. Les 20, un petit peu moins en ce moment à cause de la chasse, je vous répète, hein, le samedi, le dimanche, le jeudi. Donc si par exemple il me prenait l'envie de faire une sortie longue un jeudi, et je me mette à faire 2 bornes un jeudi, forcément sur mon temps global de ma semaine, il n'y aura pas 80% de chemin, parce que le jeudi je peux pas aller courir sur les chemins, je suis obligé de faire de la route. Donc c'est aussi comme ça que je crée un petit peu, vous voyez, mon emploi du temps, mon organisation globale, etc. C'est aussi un petit peu comme ça que je le fais. J'essaye au maximum d'aller courir sur les chemins. Et à tel point que c'est quand c'est lundi ou mardi, j'ai oublié qu'il avait plu la nuit plein pot et je me suis retrouvé sur mes chemins mais avec de la gadoue, de trucs partout, de la terre dans tous les sens. Mais j'étais bien. Voilà, j'étais bien. Alors que avant, je me disais, oh, aujourd'hui, je vais pas salir les godasses. Non. Ce truc-là n'existe plus en fait. Ce truc-là, c'est non. J'ai besoin. J'étais parti sur la route et puis j'ai vu ce petit chemin là sur le côté. J'ai dit, ah, allez, va faire un peu de chemin, va courir un peu sur des terrains. Alors déjà qui sont plus souples, ce qui est très agréable. Et puis au contact des animaux. Et puis vous savez quoi, l'autre jour, je suis rentré à la maison et j'ai pu montrer à ma fille, je lui ai montré une vidéo d'un petit écureuil qui jouait dans les arbres. J'aurais pu en faire une autre le lendemain parce que quasiment tous les jours, je vois des petits écureuils, etc. Des fois, je m'arrête, je fais des petites vidéos et hop, je remonte des petites vidéos des écureuils. Des fois, je peux lui montrer des vidéos des fameux petits lapins là que je dérange un petit peu sur leur chemin quand ils m'ont pas entendu. Et voilà, ça fait partie aussi de mon mode de fonctionnement, de ce qui me nourrit en fait. C'est ça en fait. C'est cette image à la fois d'être le vieillard galopant et bondissant et de reprofiter de la nature. Moi qui étais très urbain j'étais très urbain tout le temps en fait. Avant, j'en reprofite et je redécouvre un petit peu ce bonheur d'aller me poser sur un gros caillou là en haut de ma petite montagne, de regarder les volcans, de respirer tout là-haut. Ça me fait vraiment 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 beaucoup de bien. Ensuite, j'ai une autre question qui m'était posée, c'est est-ce que je prévois de m'arrêter pour les fêtes ? Hein ? Est-ce que cette série va s'arrêter pendant les fêtes ? Alors, je le dis vraiment très clairement, le truc, c'est non. Voilà. Le but du jeu pour moi, c'est de continuer vraiment, vraiment, vraiment tous les jours, y compris pendant les fêtes. J'ai une tradition, c'est que chaque année, je cours avec mon chapeau de Père Noël, mon petit bonnet de Père Noël, le 24 en début d'après-midi. Chaque année, les cadeaux sont déjà faits, tout est préparé, voilà, le réveillon se fait pas à la maison, donc on n'a pas à préparer la maison ou quoi que ce soit. Pendant que ma fille fait la sieste, hop, je prends mon petit bonnet de Père Noël et je vais courir sur mes volcans avec mon petit bonnet de Père Noël. C'est le Père Noël court sur les volcans. Bon. Il n'y a pas de raison que cette année, j'arrive pas à le faire. Alors, peut-être que je le ferai le matin, peut-être que je le ferai à un moment différent, etc. Mais je vous rappelle quand même que mon truc, c'est de courir 10 minutes et, minimum 10 minutes et 1 miles. Donc, il y a bien un moment donné où même le 24, je pourrais aller courir, je vais pas aller courir une heure peut-être le 24, mais je pourrais le faire. J'ai une autre tradition, c'est que le 1er janvier le matin, je cours toujours aussi. Ben, pareil, c'est pareil. Là où j'ai pas de tradition, c'est d'aller courir le 25. Bon bah écoutez, ça peut me faire un petit cadeau. Écoutez, on peut dire après la dinde. Pourquoi pas, je pourrais dire à ma femme, écoute, mon petit cadeau que tu me fais, c'est dire, moi je prends 10 minutes pour aller courir. Pourquoi pas, ça peut être un cadeau. Laissez-moi le temps d'aller courir. Et le 31, je peux le faire avant le réveillon aussi, sans aucun problème. Donc, courir pendant les fêtes, c'est pas un problème. Et donc, j'ai bien prévu de courir pendant les fêtes. C'est comme ça, j'ai envie de continuer la série le plus longtemps possible. Et en fait, vous savez, je vous ai parlé de fameux clubs, là, de ceux qui courent tous les jours. Pour rentrer dans le club, il faut courir 365 jours d'affilée. Il faut faire une série de 365 jours pour avoir le droit de s'inscrire, d'être listé dans les coureurs du quotidien. Donc, vous avez compris que mon prochain objectif, ça sera d'arriver à courir. C'est d'arriver au moins à un an. Au moins à un an, mais je l'ai dit dans une vidéo, mon but du jeu, c'est de courir comme ça toute ma vie, tous les jours. C'est mon... Alors, est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas, est-ce qu'il va se passer? On sait pas. Je peux pas dire ce qui va se passer. Mais en tout cas, mon objectif, c'est d'arriver tous les jours à courir ce minimum, etc. Même si c'est que 10 minutes, 1 miles, c'est de le faire. Parce que c'est aussi comme ça, mon mode de vie qui s'est créé comme ça. Maintenant, ensuite, y a bien sûr des questions qui se posent sur mes points de progression. Sur qu'est-ce qu'il me reste à faire pour progresser. Alors, je vais vous donner quelques points de progression tels que moi je le vois ensuite. Travailler la vitesse. Parce que maintenant que j'ai regagné un petit peu en foncier, en capacité à courir plus longtemps, etc., j'ai envie, en fait, de retrouver ma capacité à courir un peu plus vite. Alors, par exemple, il y a chaque année la course des rois qui est à 5 km début janvier, hein, voilà, juste après les fameux réveillons, etc. C'est là où j'ai mon meilleur temps sur 5 km. J'aurais bien envie d'aller retâter un petit peu, de voir si je suis capable de retrouver de la vitesse pour être capable de recourir dans cette zone-là de vitesse à laquelle j'étais capable de le faire. Parce que bon, bah, même si l'ego est un petit peu, c'est un petit peu tu, même si j'ai un petit peu calmé sur des choses, ça fait toujours plaisir de se dire, on est capable de courir un peu plus vite, on est capable de courir plus vite, etc. Mon deuxième objectif, c'est, en point de progression, c'est d'allonger les distances des sorties longues. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'en courant tous les jours, en ayant un volume qui est autour de 50 km par semaine en ce moment, par exemple, il y avait des séances, par exemple, dans les préparations marathon qui montaient jusqu'à 23, 25, 26, 30 km. Actuellement, je suis pas capable, pour l'instant, par exemple, d'aller faire une sortie un dimanche, de dire je vais faire 25 km en courant, je ne suis pas capable de le faire. Alors que, en volume de course, quand je préparais le marathon, j'avais des semaines à 50 km, dans lesquels j'avais 17 km le mercredi, j'avais 7 ou 8 km le mardi par exemple, 17 km le vendredi, le mercredi, donc vous voyez, on était là-dessus, plus une troisième séance du le dimanche qui était autour de 20 km. Et puis au milieu, bah il pouvait y avoir une petite séance de côte ou des choses comme ça. Donc s'il faisait peut-être moins de volume et plus d'intensité, et ça faisait des semaines autour de 50 à 60 km dans laquelle il y avait un tiers qui était pris par une grosse sortie longue de préparation marathon. Et maintenant dans ces 50 km en fait, ils sont plutôt répartis sur des séances de 8, des séances de 9, des séances de 5 6 km, vous voyez, des choses comme ça. Mais j'ai pas de séances qui dépassent les 10. J'ai très rarement dépassé les 10 les 12 km. J'ai fait 14. J'ai rarement dépassé des séances qui faisaient plus de 10 km. Et en fait, je vois que maintenant, même faire des séances autour de 10 km, il faut que ça redevienne une habitude, en fait. Il faut que naturellement, ça devienne plus facile de refaire des séances de 10 km plus régulièrement pour que je sois plus à l'aise sur ce genre de distance. Parce que je voudrais allonger les distances. Je l'ai dit, hein, l'an prochain, j'ai un objectif, c'est faire un gravelman, donc c'est du vélo. Mais ça veut gravelman, c'est 350 bornes de vélo. Donc l'effort, c'est un effort qui est long. Donc, faut arriver à retourner sur l'effort long. Et puis, je vous rappelle que mon objectif de l'année d'après, c'est l'Ironman. Et là, dans l'Ironman, il y a du vélo, de la natation et un marathon aussi, bien entendu. Donc, forcément, et puis tous les trucs ultra que j'avais envie de faire. Un jour, je m'étais dit, je ferai un 24 heures, etc. Forcément, c'est du travail sur du long. Mais pour l'instant, je prépare pas ça. Pour l'instant, j'aimerais bien regagner un peu cette fameuse VMA, un peu de vitesse. Donc, j'ai plutôt travaillé sur la vitesse et quand même essayer d'allonger un peu les sorties longues, c'est-à-dire avoir un mix avec des séances d'entraînement où l'intensité permettra de travailler la vitesse, et puis des sorties longues un peu plus longues, et puis au milieu, avoir des petits trucs de récup. Ensuite, l'autre aspect sur lequel je travaillais, c'est le renforcement physique, le gainage, que je fais moins, aussi parce qu'avec mes douleurs, j'étais moins capable de le faire, et pourtant, c'est le fait de gainer, d'avoir du gainage dynamique, etc., me permettrait pourtant de diminuer les douleurs, mais vous voyez, ça paraît... C'est pas instinctif comme ça, hein. Quand on se dit on a mal, on évite de bouger parce que ça provoque des douleurs. Et pourtant, c'est en allant travailler justement ce renforcement, cette musculation, mais en faisant attention à quel mouvement on fait, que on va contribuer à baisser les douleurs. Donc là-dessus, il faut que je retourne là-dessus, sur du gainage, sur l'abdos, sur la musculation, avec des élastiques, des choses comme ça, par exemple, pour avoir tout simplement une meilleure tenue au niveau du dos, une meilleure tenue lombaire, une meilleure tenue du ventre, etc. Et puis, je vous répète aussi, hein, mon truc, avoir des abdos, hein, qui reste un espèce d'objectif que je me dis qu'un jour ou pas, j'y arriverai. Mais je vois des cas où on peut dire qu'on peut y arriver. Et puis, j'ai même un invité dans les cartons qui m'a prouvé qu'on peut y arriver même à 50 ans. Donc, voilà, ça reste un objectif final pour moi. Ça reste une sorte de Graal, en fait, c'est bizarre, hein, mais ça reste une sorte de Graal. Alors certains diront que ça fait partie des complexes d'Adonis, etc., mais en tout cas, pour moi, ça fait partie du Graal d'avoir un ventre qui ne soit plus un ventre mou, un ventre flasque, etc. Ça fait partie un petit peu de mes envies. Bien sûr, je me rends compte qu'il est beaucoup moins flasque qu'avant, mais il n'a pas encore la forme que je veux. Toutefois, je le répète, un changement important va venir aussi dans mes points de progression, c'est que Gravelman, mon objectif Gravelman, donc c'est 350 km de vélo, c'est sur un objectif de 2022. Je vais lancer un nouveau podcast là bientôt pour vous expliquer comment ça va se passer. Ça va être en fait le kilomètre 42, mais façon Gravelman. Kilomètre 42, c'était préparation marathon, mais là, ça va être préparation Gravelman. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, bah, je vais mettre du vélo dans ma pratique. Et donc, le vélo, au début, ça va être des sorties courtes, et puis petit à petit, des sorties de plus en plus longues, parce que le but du jeu, c'est d'arriver à faire à supporter les capacités à rouler 350 km. Et donc, forcément, que dans les mois qui viennent, ça va changer quelque chose. Alors, le but du jeu, c'est de continuer à courir quand même. Mais c'est de voir comment l'impact du vélo, quel est l'impact que va avoir le vélo sur la course. Comment ça va faire bouger les choses. Comment faire des combinés de séances, ça va faire les choses, la fatigue, etc. Ça va être une préparation, tout simplement aussi, hein, intéressante ensuite pour les étapes suivantes, Ironman et autres. Mais on va voir l'impact du vélo, notamment par exemple sur le cardio, sur la musculation, sur les mouvements et tout. Parce que c'est pas forcément les mouvements qui vont dans le même sens, en fait, j'ai envie de dire. On travaille pas tout à fait les muscles, etc., de la même manière. Mais ça va aussi jouer, bien sûr, sur ma dépense calorique, ça va aussi jouer sur l'endurance, ça va jouer sur le cœur, ça va jouer sur plein de choses. Ça va aussi jouer sur la fatigue. Parce que le vélo est un sport porté. Donc les chocs, les impacts sont différents, la fatigue est un petit peu différente. Alors bien sûr, dans les mois qui viennent, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Je vais moins courir, mais continuer à courir tous les jours, faire plus de vélo, bien sûr, pour arriver à faire le Gravelman, et on verra un petit peu l'impact que ça va avoir. Ça, ça fait partie, en fait, des grands points d'interrogation sur ma progression, sur ce qui va se passer ensuite. Mais en fait, je me dis que la combinaison des deux ne peut être que bénéfique. Donc, ça sera bénéfique. Après, maintenant, je me suis quand même posé quelques objectifs qui sont des jalons, en fait. Parce que maintenant, si mon jalon prochain, j'ai fait 100 jours, c'est-à-dire, il faut que j'arrive à un an, c'est-à-dire 365, il me resterait à voir un truc, une montagne, dire il faut encore que je cours 265 jours pour arriver à rentrer dans ce fameux classement que je voudrais faire, etc. Et c'est trop gros, en fait. Il faut poser des jalons intermédiaires. Alors, bien sûr, il y a un jalon, par exemple, ça serait la séance 200, le 10 février. Mais on peut poser d'autres paliers. Par exemple, le 600e kilomètre. J'ai fait 523 kilomètres. Eh bien, ça serait de fêter le 600e kilomètre depuis que je cours tous les jours. Boucler le mois de novembre en ayant couru tous les jours, par exemple. Aussi, vous voyez, par exemple, le 600e arrivera bientôt, parce qu'à 40 kilomètres, en ayant fait 523, on va dire que dans deux semaines, je suis à peu près à 600 kilomètres. Ensuite, le palier suivant, ça sera courir tout le mois de novembre. Et puis ensuite, sur le mois de décembre, ça sera de courir tout le mois de décembre, courir le fameux 24 décembre, le 25, le 1er janvier, etc. Puis ensuite, le 6 mois, hein, ça sera... Il y a un palier de 6 mois qui est le 23 janvier. Puis le palier des 200, hein, le 10 février. Puis on posera d'autres paliers ensuite, parce que quand on a 200, il y aura un palier des 250, des 300. Et puis ensuite, on pourra arriver sur ce fameux palier de l'année. Donc, j'ai posé aussi comme ça des jalons, hein, et ça c'est quelque chose que je vous recommande de faire, c'est de poser des jalons, c'est-à-dire de dire je vais faire un truc global comme ça, c'est trop gros, mais poser des petits des trucs intermédiaires, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi extrêmement intéressant, et notamment dans les jalons, hein, ce que je pourrais faire, c'est qu'on pourra faire une FAQ des 200 et tout, on pourra faire des bilans 6 mois, comment ça s'est passé, etc., et puis refaire des épisodes un peu de ce type-là pour voir un petit peu les changements. Maintenant, je peux pas finir cet épisode sans vous donner quelques conseils si vous avez envie de faire un petit peu la même chose. Alors, je vous ai fait le bilan, hein, vraiment pour vous présenter un petit peu les choses. Mais si vous vous demandez comment vous pouvez faire la même chose, alors je vous dis pas de faire la même chose, de courir tous les jours, mais comment vous pourriez courir avec autant de régularité? Comment vous pourriez faire ça si vous avez envie de courir avec de la régularité? C'est-à-dire que peut-être votre ambition, c'est vous courez une fois par semaine ou deux fois par semaine, vous avez envie de courir trois, quatre ou cinq fois par semaine. Vous voulez arriver à courir vraiment tous les week-ends, alors que pour l'instant, vous n'arrivez pas à courir tous les week-ends, etc. Et en fait, je vous répète ma logique, c'est que moi, je préfère bouger souvent un peu que quelquefois beaucoup. Hein. Pour l'avantage, c'est que moi, je trouve que ça génère moins de fatigue, ça génère une habitude, et ça, pour moi, ça crée une habitude qui est vraiment importante, et en plus, ça allège la motivation nécessaire pour y aller, et aussi l'organisation. Je vous donne un exemple tout simple. Est-ce qu'il est plus facile pour vous de placer dans un emploi du temps 20 minutes ou une heure? 20 minutes ou une heure? Souvent, dans l'emploi du temps, c'est plus facile de se dire, tiens, là, j'ai 20 minutes, je vais en profiter d'une manière ou d'une autre. Alors que souvent, d'ailleurs, les gens qui disent, je veux absolument faire une heure, quand ils n'ont pas une heure, par exemple, ça peut arriver sur une pause déjeuner. Vous pensiez courir une heure sur la pause déjeuner, mais vous avez un collègue qui, juste avant que vous alliez, là, comme ça, il tape à la porte, dit, en fait, j'ai un truc à te demander en 5 minutes et tout, t'as 5 minutes. Oui, j'ai 5 minutes. Et puis, en fait, les 5 minutes deviennent un quart d'heure. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez plus une heure, vous avez 45 minutes. Bon, vous allez quand même faire votre séance. Si vous êtes perfectionniste en disant il faut absolument que je fasse une heure, vous allez annuler votre séance. Non, le but du jeu, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de dire, je vais plutôt partir de dire que le minimum, c'est de faire mon minimum viable, je vous répète, c'est de faire 10 minutes et 1 miles, c'est de dire, du moment que j'ai 10 minutes et 1 miles dans ma journée, je suis capable de le faire. Donc vraiment, cette logique-là, c'est ça, c'est de se dire, peut-être que des fois vous avez envie de faire une heure, vous pouvez pas faire une heure, mais si vous faites 45 minutes, est-ce que finalement c'est déjà pas si mal que ça? Même si vous faites 20 minutes ou 30 minutes et vous mettez un peu d'intensité, est-ce que c'est pas si mal que ça? Donc c'est plus facile à placer 20 minutes qu'une heure, et puis il y a aussi une question de motivation. Les jours où vous n'êtes pas très motivé, où c'est un peu compliqué, etc., est-ce qu'il vous faut plus de courage, comme disent certains? Vous savez, moi je déteste qu'on me dise bon courage. Il y a des gens, quand je vais courir, on me dit « bon courage ». Non, c'est pas du courage d'aller courir, ça me fait plaisir. Mais bon, on va dire que pour certains, des fois, il faut avoir plus de motivation, plus de courage pour aller courir. Est-ce qu'il faut plus de courage pour attaquer 20 minutes de sport, ou 10 minutes dans mon cas, ou faire une séance de 1 heure ou 2 heures? Bien entendu, quand vous êtes là par notre truc, c'est plus facile de bouger de votre canapé si vous vous dites « allez, je pars pour 10 minutes » que de bouger votre canapé pour dire « je pars pour 1 heure ou pour 2 heures ». Bon, voilà, la logique, elle est là-dedans. Donc, déjà, vous placez des petits objectifs, vous placez des gros objectifs de dire « non, je vais aller courir une heure tous les samedis matins, etc. » dites-vous déjà que le point de départ, c'est dire non, je vais aller courir 10 minutes, 20 minutes ou quoi que ce soit, mais je vais le faire beaucoup plus souvent. Et en fait, le fait de commencer vous amène à arriver à faire plus longtemps. L'autre jour, je me suis dit à ma femme, je dis, oh, bon, je pars 20 minutes, et puis au final, je reviens 48 minutes plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Fameux chemin, la bifurqué, droite à gauche, etc. Voilà, ça arrive, mais ça m'arrive tellement souvent cette histoire-là. C'est juste parce que j'étais bien, c'est juste parce qu'au début je me sentais un peu fatigué, me dire ouais j'ai fermé 10 minutes, je me sens un peu fatigué, je vais pas faire beaucoup plus, puis je me rends compte qu'en fait, ma sciatique, mon dos, tout ça, ça va bien, que ça se décoince un petit peu, le fait de courir, ma sciatique me fait moins mal, etc. J'ai envie de prolonger un peu parce qu'il faisait beau, et ben voilà, au lieu de fermer 10 minutes, 15-20 minutes, je dis bah allez, je vais prendre un chemin, je vais faire un peu plus, et je rentre avec un grand sourire. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important. Maintenant, ensuite, une fois que vous avez posé ce cadre-là, il faut vous poser une question qui est importante, et là je reviens un peu à ce que je disais dans l'épisode 119 sur la motivation, c'est la question du pourquoi. Pourquoi vous avez envie de faire ça? Pourquoi vous avez envie de courir plus? Pourquoi vous avez envie de bouger? Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à des objectifs? Est-ce que c'est des courses ou quoi que ce soit? Et je le répète, moi j'ai mon image du vieillard galopant, du vieillard bondissant, de grandir, enfin voir ma fille grandir en étant en bonne santé. J'ai une image en fait, parce que je vois par exemple au club, c'est un truc que j'ai déjà raconté. Quelqu'un qui court avec sa fille, et que sa fille elle a 20 ans, lui il en a 60, il est capable de courir avec elle. J'ai envie un jour, si Camille on peut le faire, si elle est sportive, etc., de me dire que je suis capable d'aller courir avec Camille et qu'elle me trouve pas comme un vieux schnock, gras, fat, qui peut pas, qui est complètement cuit, qui arrive pas à courir, etc., au bout de 100 mètres. Non, j'ai envie de me dire, un jour on est capable d'aller courir une heure ensemble, si elle en a envie, si elle a envie de le faire, etc., qu'on soit capable de le faire. Et elle me voit courir tous les jours. Et pour elle, je suis aussi. C'est ça aussi un espèce de truc qui est pour moi important. C'est aussi un exemple, j'ai envie de dire. C'est de pas lui dire un jour, oui, mais tu sais, le sport, c'est bon pour toi, etc. Parce que j'en suis convaincu. C'est de lui montrer, en fait. Là, elle voit que tous les jours, je fais du sport. Elle voit qu'on fait du sport à la maison. Et c'est quelque chose qui, pour elle, est naturel. Quand hier, je lui dis, je vais courir, elle me dit, cours bien, papa. Et elle le voit. Elle me dit, l'autre jour, on est allé voir un bout de course qui était vers la maison. Elle m'a dit, moi aussi, j'ai envie de courir plus tard. Et qu'est-ce qu'on faisait? On suivait un petit peu le parcours, etc. Elle courait. Elle me disait, moi aussi, je fais du running. Donc, ce truc-là, en fait, se courir régulièrement, c'est aussi pour moi, dans mes motivations, de lui montrer tout simplement ce que c'est d'avoir une vie sportive. Et j'ai envie de lui montrer ça. Je veux pas en faire une sportive, de dire sportif pro, quoi que ce soit. Je veux en faire quelqu'un qui finalement est capable de se dire que si elle a envie de faire du sport parce que ça lui fait du bien, et ben que elle soit capable d'essayer de voir si ça lui fait du bien ou pas, si c'est quelque chose qui peut lui convenir, parce que je sais à quel point pour moi c'est quelque chose qui me convient et j'ai pas envie de que ça lui ferme des portes. Juste je veux lui montrer l'exemple, voilà. Je sais pas comment le dire, je veux lui montrer que oui, on peut se sentir bien en faisant du sport, etc. Que même si c'est pas le cas de tout le monde, de son entourage, peut-être que c'était pas le cas de certains à l'école, peut-être qu'il y a des gens à l'école qui vont ronchonner sur le sport, etc. Peut-être, mais qu'elle est aussi un exemple de dire, oui, on peut se faire plaisir en faisant du sport. Ensuite, donc, ça, c'est les motivations. Ensuite, le truc, l'étape suivante, c'est qu'il faut que vous arriviez à créer l'habitude. Et l'habitude, en fait, est toujours difficile à prendre, car votre cerveau, il déteste le changement. Et notre cerveau, en fait, il est patachon. Mais il est pas patachon par fainéantise. Il est patachon par protection. Un peu par fainéantise aussi. Il a pas envie de faire des nouvelles choses, en fait. Faire des nouvelles choses, c'est toujours difficile. Et en fait, il dit, oui, mais moi, je suis bien à faire toujours la même chose, etc. On est pas mal comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux faire autre chose? Donc, à un moment donné, quand on doit prendre une nouvelle habitude, et notamment prendre l'habitude de faire une course, faire de la course, faire du sport, faire du mouvement, faire des abdos, faire n'importe quoi, il faut se dire que ça va toujours remplacer notre habitude. Le principe des habitudes, c'est que ça va toujours remplacer notre habitude. En fait, notre cerveau, il prend des milliers de décisions toutes les journées, et sans qu'on s'en rende compte, il le fait en automatique. En automatique, en automatique, en automatique. Et à un moment donné, c'est que si on veut faire un autre truc que ce qu'il a l'habitude de faire, il va falloir le forcer. Il va falloir passer dans du, forcer à un moment donné ce truc-là. Et donc, en fait, il va falloir rendre automatique quelque chose qui ne l'est pas. Et pour arriver à introduire ça, il va falloir enlever quelque chose qui est déjà une habitude automatique. Et donc, il va falloir forcer la machine. Et ça, c'est là où on a besoin de la motivation. C'est là où on a besoin de l'inspiration. C'est là qu'on a besoin de se connecter à son truc qui est important. Et en fait, c'est un élément pour vous rappeler de comment ça fonctionne tout ça. C'est qu'il faut vous rappeler que l'habitude fonctionne toujours avec un système qui est simple. C'est qu'il faut un déclencheur, une récompense. Donc le déclencheur, c'est avant de faire quelque chose. Et la récompense, c'est après l'avoir fait. Et donc, en fait, si vous voulez prendre une habitude, il faut que vous soyez capable de regarder vos déclencheurs et de regarder les récompenses que vous avez. Et Actuellement, sur vos habitudes, demandez-vous comment certaines habitudes sont mises en place, notamment vos mauvaises habitudes. Toutes les habitudes que vous avez, bonnes ou mauvaises, ont fonctionné à un moment donné. C'est-à-dire que il y a eu un déclencheur et le cerveau y associe une récompense. Et ça peut être le cas sur des mauvaises habitudes comme sur le cas des bonnes habitudes. Un cas d'une mauvaise habitude, c'est que avant, dans mon ancienne vie, quand je rentrais à la maison après une journée de travail, j'ouvrais le frigo et je prenais un grand verre de coca. Et puis je mangeais un gâteau. C'était l'habitude du matin, de la fin de journée. Mécaniquement, ça s'est devenu une habitude parce que je pense qu'au départ, c'était j'ouvre la porte de la maison, je pose mes clés, je vais chercher un verre de coca et ça me faisait une sorte de réconfort. Il y en a certains, c'est leur clope, il y en a certains, c'est leur bière. Un jour, j'ai eu quelqu'un qui me disait tous les soirs quand je rentre du travail, je bois une bière. Mais est-ce qu'il est capable de maintenant me dire pourquoi est-ce qu'il me boit une bière? Est-ce que moi, j'étais capable de dire pourquoi je buvais un coca en arrivant à la maison? J'étais incapable de le dire. Parce que au début, oui, ça me faisait plaisir peut-être un jour de boire un coca et tout, puis petit à petit, c'était une sorte de récompense. Ma récompense, voilà, tac. Et mon cerveau, en tout cas, l'a enregistré comme une récompense. Sauf que, à force de faire ça pendant un an ou deux ans, quoi que ce soit, je ne sais même plus quelle est ma récompense finale. Mon cerveau, il a juste enregistré. Maintenant, l'habitude, c'est tu rentres à la maison, tu poses tes clés, tu prends ton coca, tu vas t'asseoir dans le canapé, tu regardes la télé en bouffant un gâteau. Alors là, cette série-là, d'habitude, elle est extrêmement mauvaise. Et bien sûr qu'un jour, pour la casser, ben, il faut dire, non, là, tu arrêtes. Déjà, tu n'as plus de coca dans ton frigo. Bam! Déjà, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça. Et donc, ça, c'est du changement. Et forcément que, pour courir tous les jours, il y a aussi des réflexes, des choses comme ça que je dois enlever. Le réflexe de dire, après avoir travaillé toute la matinée, le réflexe, c'est plutôt de dire, maintenant, je prends un temps pour aller sur Netflix, ou même pas sur Netflix, ou sur YouTube pour regarder une vidéo, et bien, j'ai plutôt courir 20 minutes. Voilà, par exemple, ma récompense d'avoir travaillé bien toute la matinée du mardi, par exemple, et bien, c'est d'aller courir. Ça peut vous paraître bizarre, mais pourquoi? Parce que j'y prends du plaisir. Et c'est là où ma récompense, en fait, c'est de dire, j'ai bien travaillé, bon, maintenant, je vais prendre du temps pour aller courir, ça va me faire du bien, et je vais avoir cette récompense de me faire du bien. Et notamment, une récompense, c'est d'aller voir sur mon téléphone, enfin, à la fin, d'aller voir. C'est pas ma récompense. Ma récompense, en fait, c'est qu'à la fin de chaque séance d'entraînement, je suis capable de me prendre en photo, une petite selfie. Ça, c'était mes habitudes sur par rapport à ma perte de poids, pour voir ma tête, comment elle changeait à chaque fois, pour voir la sueur sur mon visage après une séance, et voir en fait aussi comment mon visage il a fondu. C'est ce qui m'en était servi sur ma perte de poids de ça. Et en fait, maintenant, en fait, mon plaisir, c'est d'avoir un selfie avec le sourire à l'arrivée après chaque séance de course, donc tous les jours. J'ai ça, j'ai ce truc-là. Et ben, c'est un changement d'époque, hein, franchement, par rapport à des années, par rapport à l'époque où ma récompense, elle pouvait être coca, bouffe ou je sais pas quoi. Maintenant, c'est d'aller courir et d'arriver à avoir un sourire, de prendre en photo et me dire, cette photo, elle est sympa, etc. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Le café du vendredi matin. C'est pareil, je vais faire 5-6 kilomètres et puis je bois un café, je suis content, j'y discute un petit moment, ça fait un petit peu de socialisation en plus parce qu'en travaillant à la maison, on voit moins de monde et hop, et ben je suis content et ensuite je rentre à la maison tranquillement et ma matinée, la suite de ma matinée peut continuer, peut bien se dérouler, ça roule, etc. Et donc c'est tout ça, en fait, mes petites récompenses qui mettent des habitudes en place. Et donc vous aussi, vous devez regarder quelle est votre récompense. Moi, l'une de mes récompenses, par exemple, des fois, c'est juste d'aller voir les volcans. Et des fois, même, je suis déçu quand il y a des nuages sur les volcans. C'est de dire, pour répondre à la question, une des questions, parce que sur l'histoire de comment je fais gagner mes bonnes pensées sur les mauvaises, c'était ça aussi, j'avais dit, c'est l'image du vieillard galopant et bondissant, mais aussi, le fait de me dire, si je vais courir, si je monte là-haut, je vais voir les volcans, je vais voir ça et tout, je vais avoir profité de la vue, le matin, je vais voir le lever de soleil. Tout ça, vous voyez, ça joue dans, finalement, mes récompenses à aller courir. Et ça, c'est un truc qui est vraiment extrêmement important. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, vous allez devoir regarder un petit peu votre quotidien, comment vous le construisez, comment vous faites tout ça avec votre déclencheur et vos habitudes et vos récompenses de vos habitudes. Et en fait, ça va devenir petit à petit automatique. Mais ce qui va se passer, c'est que peut-être que selon les jours où le déclencheur peut être différent. Par exemple, si c'est le week-end ou si c'est la semaine, vous n'aurez peut-être pas le même déclencheur. Voilà, peut-être que le déclencheur sera un petit peu différent. Moi, un déclencheur du dimanche matin pour aller courir, quand à l'époque c'était pas une habitude, c'était de poser mes affaires de running dans le salon. Et en fait, quand je me levais le matin, le premier truc que je voyais, c'était mes affaires de running qui étaient prêtes. J'avais plus qu'à me sauter dans mon short, à mettre ça, et puis aller courir. Tout était prêt. Il n'y avait rien d'autre à faire. Tout était prêt. Donc, Je voyais mes affaires, je dis ah oui, aujourd'hui j'ai prévu d'aller courir. Et ben mes affaires sont prêtes, je vais courir. J'ai même entendu des gens dire qu'en fait le samedi soir ils se couchent en tenue de running propre et comme ça le dimanche matin ils se lèvent, ils mettent les baskets, ils vont courir. Chacun son truc. Mais en tout cas c'est un déclencheur. Vous voyez le déclencheur, le simple déclencheur de dire. En fait, c'est là après ça marche en série. C'est-à-dire qu'après, vous allez dire, le samedi soir, je prépare mes affaires pour le dimanche matin. Le dimanche matin, je me lève, je vais courir. Et en fait, on se crée comme ça des habitudes sportives. Et le samedi soir, naturellement, bah, je prépare mes affaires pour le lendemain matin, etc., etc., etc. Et maintenant, moi, tous les jours, je prépare mes affaires pour le lendemain matin. Hein, quasiment, parce que je vais souvent courir le tôt le matin, par exemple. Je sais que le lendemain matin, je me dis, bah tiens, quelle heure se lève le soleil, etc. Je regarde un petit peu, je prépare mes affaires. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Tiens, je vais charger mon casque, je vais faire ça et tout. Et tout ça devient très 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 automatique. Et en fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est de cerner les déclencheurs que vous pouvez avoir. Alors peut-être que le déclencheur du mardi, quand vous êtes au bureau et que vous allez travailler, vous faites par exemple votre séance à la pause déjeuner, ne sera pas le même que le déclencheur du samedi ou du dimanche, quand vous êtes à la maison. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes déclencheurs, mais en fait, vous pouvez avoir un déclencheur de semaine, un déclencheur du week-end, un déclencheur du vendredi, plein de déclencheurs. Le déclencheur du vendredi, pour moi, c'est... Il est double. Le vendredi matin, c'est de dire, j'amène ma fille à la crèche et à l'école, plutôt parce qu'elle est à maternelle, et je vais courir derrière. Mais j'ai aussi le déclencheur, en fait, qui est un petit peu dans ma tête, de me dire, ah bah tiens, un de mes déclencheurs, c'est je sais le plaisir que je vais avoir de retrouver le copain Luc, le barista Luc, etc., avec son café, de prendre du plaisir à discuter 5 minutes avec lui. Et ça, ça fait partie de mon déclencheur. Vous voyez, j'anticipe un petit peu la récompense future. Et ben, c'est une manière de déclencher les choses. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à cerner. C'est comment vous allez rendre automatique le fait d'aller courir, le fait d'aller bouger, le fait d'aller faire du vélo, d'aller à la natation, ou faire je sais pas quoi, ou faire des abdos tous les matins. Et bien entendu, pour que cela soit possible, il faut rajouter une dose d'organisation, prévoir des créneaux, vous donner des rendez-vous, placer vos entraînements dans votre emploi du temps. C'est votre calendrier, votre rendez-vous à vous, vous les placez dedans. C'est d'ailleurs l'un des intérêts, j'avais dit, de courir en club, c'est que quelqu'un, ça vous place pour vous des rendez-vous. C'est-à-dire que vous savez que si vous voulez courir en club ou avec quelqu'un, vous savez que vous y allez, par exemple, tous les mercredis à 18h30, vous avez rendez-vous au club, et ben vous savez que votre agenda, c'est marqué et vous n'allez rien faire à la place. Et ça, c'est vraiment un truc important. Moi, mon conseil, c'est de placer un rendez-vous récurrent dans votre agenda numérique, hein, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, de dire tous les mardis à 12h, je fais du sport. Tac, vous placez ça dedans. Et à partir de là, en fait, ça va vous faciliter l'habitude, parce que vous savez que tous les mardis à 12h, vous faites du sport. Et en plus, ça vous amène à envisager votre emploi du temps différemment. C'est-à-dire que naturellement, avant de placer quoi que ce soit d'autre, vous avez déjà placé votre séance de sport. La première chose que vous devriez faire quand vous envisagez votre emploi du temps, ça serait de placer votre séance de sport. C'est-à-dire que, au lieu de placer le sport en bouche-trou, de vous dire, quand j'ai le temps, je vais faire du sport, vous allez plutôt organiser votre emploi du temps, vous dire, je prévois du temps pour faire du sport. Et ensuite, je regarde ce que je peux mettre à côté. Ça change tout. Ça change tout. Parce que, au lieu de dire, le mardi midi, si j'ai le temps, je vais faire du sport. Et ben, qu'est-ce que vous allez dire? Je vais faire du sport. Et si j'ai le temps, ben, peut-être que j'irai voir le magasin qui est à côté. Bah ouais, je sais, ça, c'est bête comme ça, mais c'est un petit peu le truc. Et en limite, vous pourriez presque vous dire, je vais faire du sport. Et ensuite, ma récompense, c'est d'aller voir la petite boutique à côté où je vais pouvoir, peut-être, m'acheter un nouveau t-shirt. Et puis, en plus, je vais constater que je perds une taille tous les 6 mois et peut-être que ça va me donner plus envie encore de faire du sport. Je veux dire qu'on est là dans les motivations. C'est ça un petit peu le ressort de la motivation. Alors bien sûr, quand on court tous les jours, les motivations sont un petit peu différentes. Quand vous courez 3 fois par semaine, c'est différent. Quand vous voulez augmenter votre volume, c'est un petit peu différent. Mais c'est un petit peu le principe de tout ça. Et en fait, moi, pour vous montrer à quel point j'ai introduit cette notion-là d'organisation dans vraiment du temps, c'est que ces dernières années, je refusais systématiquement tous les rendez-vous qui me faisaient rater mes entraînements de club le mercredi et le vendredi. Je gérais mon emploi du temps, par exemple, de prof à la fac, pour être à l'heure le mercredi. Si vous me disiez, vous allez faire un cours le mercredi après-midi à Vichy, en sachant que à Vichy, je sortais à 17h de cours et que je devais être à l'entraînement à 18h30, je savais que c'était impossible et donc je refusais systématiquement. Je plaçais systématiquement aussi mes rendez-vous pour être à l'heure systématiquement aux entraînements et pour dire aussi, par exemple, le mardi matin, fameuse séance du mardi, je n'avais pas de rendez-vous à l'extérieur, je travaillais à la maison parce que le mardi j'allais courir. Et c'était systématique, j'ai organisé mon emploi du temps comme ça. Ces dernières années, j'avais systématiquement tout organisé comme ça pour arriver à avoir ce fonctionnement-là, pour dire que le sport était une priorité. C'était une priorité d'arriver à rentrer dans ce sport parce que c'est ce qui me faisait du bien. Et à partir de là, je le plaçais d'abord dedans, parce que c'est ce qui me permettait moi d'être bien. Et à partir de là, j'organisais mon emploi du temps autour de ça. Alors vous allez me dire, oui, moi j'ai peut-être de la chance parce que je suis travailleur indépendant, je travaille à la maison pour le faire, etc. Mais ça marchait aussi. Je vous ai dit, quand j'étais salarié de la fac, que j'étais prof, etc., que je faisais 300 heures de cours dans l'année, il y a aussi à ce moment-là, bon, il y a des moments, j'ai des gens dans les bureaux qui me disaient, non mais tu nous gonfles un peu, quoi, à nous dire tu peux faire cours le vendredi après-midi, tu peux faire cours le lundi matin, tu peux faire cours le mardi. Et alors, oui, mais attendez, autour de ça, d'accord, on va adapter, d'accord, ça je vais faire différemment. Je suis prêt à accepter la charge de dire, il y a certains jours, je vais faire plus d'heures, etc., pour arriver à placer ces séances-là. C'était un petit peu mes contraintes, et j'ai placé vraiment comme ça. Et c'est aussi comme ça que j'ai intégré le fait de faire du sport beaucoup plus régulièrement. Et maintenant que je cours tous les jours, bien entendu, ça veut dire que dans ma journée, quand je fais mon emploi du temps, en fait, je le fais à la semaine, hein, je regarde un petit peu. Je sais que le vendredi matin, je vais aller courir à telle heure. Je sais que le mardi, je vais courir à telle heure. Je sais que le samedi dimanche, je vais courir à telle heure. Je sais que le lundi, je vais plutôt placer ma séance à tel moment. Je sais que le jeudi, je vais plutôt la placer à tel moment. Et donc, je crée des déclencheurs, je crée des habitudes. Je sais, je suis programmé pour le faire. Des fois, ça change. Des fois, je dois le bouger parce que il y a des contraintes de temps, parce qu'il y a un appel imprévu, etc. Mais c'est vraiment organisé de cette manière-là. Et à partir de là, quand vous avez mis en place, réfléchi un petit peu à tout ça, vous êtes paré pour placer, pour mettre en place une habitude, pour créer votre habitude. Et en fait, c'est vraiment ce fonctionnement-là, c'est-à-dire vous connectez à pourquoi vous avez envie de le faire, regardez votre emploi du temps, regardez les déclencheurs, regardez vos déclencheurs des mauvaises habitudes, regardez les mauvaises habitudes que vous avez, comment elles sont créées, et regardez si par exemple vous pouvez pas les remplacer par une autre habitude. Si vous avez envie de remplacer votre mauvaise habitude du soir après le travail par l'habitude d'aller courir, regardez finalement quel serait le déclencheur possible, vraiment le déclencheur possible. Peut-être que c'est juste de placer vos baskets devant la porte quand vous rentrez le soir à la maison, je sais pas. Je vous dis un exemple comme ça. En tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Si vous avez besoin d'aide pour réfléchir là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi des formations en ligne sur le sujet. Hein. J'ai fait des formations en ligne sur le sujet. Elles marchent pas que pour le sport d'ailleurs, parce qu'au début, je les ai fait pour les habitudes en général, pour le travail, pour la création de contenu, pour créer du blog, etc., pour créer des podcasts. Mais je vous mets le lien dans les notes d'épisode. Il y a même un pack dans lequel il y a comment est-ce qu'on gère son emploi du temps, comment on crée on met en place des nouvelles habitudes, comment tout ça fonctionne. Parce que je pense vraiment, hein, quand on a envie, hein, de faire plus de sport, quand on a envie d'intégrer plus de sport, plus de mouvement dans son quotidien, il faut réfléchir à ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à transformer son mode de vie en devenant des sportifs, en devenant un mode de vie plus actif, plus sportif, et à se sentir mieux ainsi. Voilà mes champions, je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un épisode qui est un petit peu long, hein. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de sujets à aborder. Vous voyez que finalement, cette histoire de courir tous les jours, elle met en jeu beaucoup, beaucoup de choses, à la fois par rapport à mon parcours que j'ai pu avoir, par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport aussi à tout ce que j'ai mis en place pour être capable de le faire. Dites-vous juste un truc, c'est que courir tous les jours me semblait impossible. S'il y a même un an, je vous rappelez-vous, en juillet de l'an dernier, j'avais couru un mois et ça me semblait impossible et la fin de tout. Et pourtant, là, j'en suis à 100 jours. Vous voyez, donc j'ai déjà triplé le temps de course quotidienne que j'ai été capable de faire. Mais aussi, et ça je l'ai pas dit parce que je suis dans un autre état d'esprit, quand on se dit je fais un défi de un mois sur un truc, quand on arrive vers la fin du défi, on dit je suis pressé d'arriver à la fin. Quand on met pas de fin, en fait, on se dit on continue la chaîne le plus longtemps possible. C'est aussi un état d'esprit différent. Mais tout ça me semblait impossible il y a encore quelques mois. Et donc il y a encore quelques années, c'était encore plus impossible, etc. Et maintenant, c'est devenu naturel. Et c'est en fait vraiment l'esprit de ce que je vous dire par ce podcast, parce que je fais sur mes contenus à droite à gauche, c'est de vous dire que en fait, il y a des choses qui ne semblent pas naturelles à un moment donné, qui vont devenir naturelles, mais que des fois, oui, il faut forcer un peu l'habitude. Des fois, il faut forcer certains trucs pour le faire. Il faut mettre en place des nouveaux processus, des nouvelles choses à faire. Et petit à petit, ça devient une habitude, ça devient plus facile et ça rentre dans notre mode de vie. Et vous savez que c'est vraiment l'état d'esprit du podcast. C'est comment est-ce qu'on arrive à rentrer des habitudes sportives, le plaisir de faire des nouveaux défis, de se lancer des défis, de se lancer dans des trucs qui nous semblent impossibles à faire pour être bien, pour lutter contre la sédentarité, pour se sentir bien, pour se donner de la confiance. Parce que moi, j'en suis convaincu, et vraiment, j'en suis convaincu, c'est un truc qui est vraiment important, c'est que quand vous êtes capable de faire une course, que ce soit 5 km, 10 km, que ce soit un trail, que ce soit n'importe quoi, et je parle même pas du marathon, hein, tout, sans aller jusqu'au marathon, si vous n'avez jamais couru et que vous faites une course de 5 km, ça va vous donner une j'allais dire une putain de confiance, mais oui, c'est vraiment ce truc-là. Ça va vraiment vous donner une confiance. Puis ensuite, vous dites, je vais faire un 10. Et là, ça va vous donner une confiance de dire, je suis en plus capable de faire encore ça, et puis encore ça, et puis encore ça, et puis encore ça. Et cette confiance-là, elle va ressurgir, rejaillir sur plein d'autres choses dans votre vie. Et ça peut être sur votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle, sur votre confiance en vous, etc. Et c'est là où, en fait, Kilomètre 42 n'est pas seulement un podcast de course à pied, c'est aussi par certains aspects, un podcast de développement personnel. Mais ça, faut pas trop le dire. Chut, on le dit pas à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à faire vos retours, me dire ce que vous en pensez. Et bien entendu, à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, partager le podcast sur les réseaux sociaux. Vous savez que plus on est nombreux autour de cette dynamique-là, et plus, finalement, ça nous semblera naturel, et moins on aura l'impression d'être regardé comme des bêtes curieuses quand on dit qu'on va courir. Et voilà, moi, c'est mon utopie à moi, c'est que tout le monde se sente bien dans son corps grâce au mouvement. Et je voudrais vous faire partager cette utopie et que tout le monde participe à cette utopie. Voilà. Belle journée, belle semaine, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.